Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver en ce mardi soir, en ce 30 mai 2023. Bienvenue sur BFM Business et bienvenue dans Tech & Co, vos deux heures de tech quotidienne de 20h à 22h. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on va voir comme tech ce soir dans Tech & Co? Eh bien voici le sommaire, plein de bonnes choses. Une association étonnante et très intéressante entre Valeo, équipementier et Renault, constructeur auto, pour inventer la voiture du futur et miser tout sur le logiciel, puisque vous le savez aujourd'hui, eh bien une voiture c'est un smartphone sur roue. Quand une école, en l'occurrence l'ICAM, prend le virage de ChatGPT, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, témoignage tout à l'heure dans Tech & Co. Et puis, on reviendra sur l'actualité spatiale brûlante, hein, la conquête de l'espace par la Chine, avec cette mission Shenzhou 16 qui a décollé hier avec succès vers la station orbitale chinoise. On en parlera tout à l'heure parce que c'est vraiment un tournant, hein, dans cette histoire spatiale chinoise. On en parlera tout à l'heure avec nos experts. Voilà quelques-uns des sujets qu'on va évoquer ce soir. Tech & Co, chaque soir 20h-22h, les replays, les podcasts qui vous attendent bien sûr juste après. Merci encore une fois d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
L'actualité de la tech en ce mardi soir, c'est avec Frédéric Bianchi. Bonsoir Fred.
Bonsoir François.
Et peut-être l'avez-vous remarqué, si vous êtes abonné Orange, c'est un peu compliqué de passer des appels depuis, allez, 2-3 heures. Orange commence à communiquer sur le sujet, notamment sur Twitter. Bien voilà, il y a des problèmes de réseau chez Orange.
Oui, depuis... Alors il y a eu déjà un premier problème ce matin qui aurait duré une trentaine de minutes sur le réseau 4G. Mais il a, semble-t-il, pris de l'ampleur. Hein. Ça fait maintenant, depuis le milieu de l'après-midi, que c'est un certain nombre d'usagers se plaignaient. Dans les grandes villes, hein, Paris, Marseille, Lyon ou Bordeaux, hein, c'est ce qu'indique l'article du site Tech & Co. Donc Orange a été contacté, il confirme effectivement qu'il y a un problème, alors il n'explique pas la nature du problème, si c'est une panne, si c'est un piratage, si c'est un bug informatique, hein, on ne connaît pas la nature du problème. En tout cas, le problème est assez sérieux, il ne concerne que le réseau
vocal,
le réseau vocal.
Que les appels, parce qu'Internet fonctionne, à
4G fonctionne, exactement.
Fonctionne.
Hein. Si vous voulez appeler vos amis, vous pouvez utiliser les services type WhatsApp ou autre pour les appeler, donc en passant par le réseau data. En revanche, les appels vocaux ont des difficultés et ce qui est problématique, c'est que les appels d'urgence, les numéros d'urgence comme le 15 ou le 17, sont difficilement accessibles, hein, explique Orange, sont touchés dans des proportions limitées, mais Orange conseille d'appeler le 112 si on a une urgence. Donc si vous êtes chez Orange et que vous avez une urgence, 112 en priorité.
Voilà, et on essaiera de suivre cette actualité parce que c'est important quand même, hein, Orange, premier opérateur de France qui rencontre ces problèmes de réseau actuellement. Dans l'actualité aussi, nouvelle un petit peu plus réjouissante, c'est cette première gigafactory française. Hein. Elle se situe très précisément à Billy-Berclos. C'est dans le Pas-de-Calais, Fred, comme ça tu révises en même temps ta géographie. C'est la première usine française de conception de batteries électriques. Inaugurée aujourd'hui donc par 3 ministres, hein, ainsi que par les patrons de Total, Stellantis et même de Mercedes, qui fait partie prenante de ce projet. Justine Vassogne était sur place pour BFM Business.
Oui, en effet, c'était une inauguration en grande pompe ici à Billy-Berclos, avec cette image assez rare de 3 grands patrons de l'industrie européenne réunis. Le patron de Mercedes, celui de Total, Patrick Pouyanné, et celui de Stellantis, Carlos Tavares. Les 3 hommes ont visité la Gigafactory en compagnie de Bruno Le Maire. Carlos Tavares lui a d'ailleurs lancé « Elle est concrète, cette usine, tu peux la toucher si tu veux », parce que Billy-Berclos, c'est la première Gigafactory sur le sol français. C'est un site impressionnant de 34 hectares qui comptera au total 180 000 mètres carrés d'atelier. Alors on n'a pas vu de batterie aujourd'hui, hein. La production en grande série ne débutera qu'à la fin de l'année. On est encore dans une phase d'apprentissage, nous a dit Carlos Tavares. On va apprendre à faire du volume, on va se tromper, on va tomber et puis on va régler les problèmes. L'important maintenant, c'est d'être compétitif, a lancé de son côté Patrick Pouyanné, alors que la France et l'Europe, on le sait, ont plusieurs trains de retard sur l'Asie et sur la Chine en termes de véhicules électriques. Cette usine n'est qu'un début, a de son côté souligné Bruno Le Maire, qui a appelé à investir plus encore sur les matériaux rares, sur le raffinage. L'Europe, selon le ministre de l'économie, doit maintenant montrer ses muscles industriels.
Voilà, Justine Vasson qui était sur place donc à Billy Berclos pour BFM Business. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Hein.
Bonne nouvelle, et on voit que l'Europe rattrape son retard. Ouais. Hein. Je me souviens, on faisait des émissions en disant bah, la France, ouais, l'Europe
où sont les gigafactories
vont être dépendants des États-Unis et de la Chine. Et bien là, on voit dans toute l'Europe à des dizaines de gigafactories qui sortent rien qu'en France. Donc on a ACC, mais on a trois autres gigafactories hein, dans le nord de la France, hein, la Batterie Vallée, comme on va l'appeler, avec le chinois AESC, la start-up française Verkor, et évidemment le taïwanais Prologium, hein, qui a annoncé la plus grande des gigafactories, qui devrait ouvrir à Dunkerque dans les prochaines années.
Voilà, Verkor, beau projet hein, français aussi industriel, qui a été récompensé par les Tech for Good Awards. C'était vendredi soir sur BFM Business. Dans l'actualité, on va parler d'IA avec cette nouvelle peu réjouissante, hein, Fred. Les experts alertent sur les menaces d'extinction pour l'humanité à cause de l'IA.
Exactement, et c'est pas n'importe qui alerte, hein. C'est Sam Altman en personne, monsieur...
Le papa de ChatGPT.
Monsieur OpenAI, le papa de ChatGPT et de GPT-4, alors qu'il n'est pas à sa première sortie sur le sujet, hein, mais qui revient, hein, qui signe un texte hein, publié sur le site internet du Center for AI Safety, hein, c'est une organisation à but lucratif aux États-Unis. Il y a des grands signataires qui sont avec lui autour de ce texte, à Geoffrey Hinton évidemment, qui lui aussi, un des pères de l'IA générative, hein, qui a quitté son poste chez Google, eh bien, il se joint donc à Sam Altman, eh bien, pour prévenir encore une fois l'humanité, les gouvernements, les organisations internationales sur les risques liés à l'IA. Alors, c'est pas les seuls, voilà. Bah, c'est depuis quelques mois, on a une cohorte, on a Elon Musk, on a ces grands patrons-là, eh bien, qui préviennent, attention, il va falloir légiférer. Il va falloir aussi laisser quand même hein, se développer ces technologies-là. Hein. Le Sam Altman a vu la semaine dernière, Emmanuel Macron en a discuté avec lui et il espère trouver le juste équilibre entre la protection des consommateurs, la protection des citoyens aussi, hein, parce que ça peut évidemment truquer des élections avec l'IA, mais aussi la laisser se développer pour avoir un impact positif. On voit que cette nouvelle technologie vraiment n'arrête pas de poser question, et même, et ça c'est une première quand même, aux industriels eux-mêmes.
Dans l'actualité aussi, ce chiffre qui donne le tournis, 1000 milliards de capitalisation, c'est une première pour un constructeur de semi-conducteurs. Il s'agit de Nvidia.
C'est Nvidia, on en avait parlé les semaines précédentes. Ouais. L'annonce des résultats avait été stratosphérique. Nvidia prévoit un chiffre d'affaires de 11 milliards, c'est-à-dire une croissance de 60% au prochain trimestre. Donc, évidemment, les investisseurs, quand on leur dit croissance de 60% du chiffre d'affaires, ils se précipitent sur l'action. L'action a bondi de 30% depuis l'annonce des résultats trimestriels la semaine dernière. On est à 180% de hausse depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier. Alors, pourquoi Nvidia ? Nvidia, c'est pas que les cartes graphiques de nos ordinateurs et de nos consoles de jeux, mais c'est aussi les semi-conducteurs essentiels qui vont être utilisés pour l'IA générative. On sait que ce sont des technologies qui ont besoin de cartes graphiques. Eh bien, c'est Nvidia qui va leur fournir. Donc voilà, Nvidia explose en bourse. C'est devenu aujourd'hui, en cours de séance, alors elle n'est pas tombée depuis, mais on est quand même sur une hausse de plus de 3,5%, la sixième entreprise la plus valorisée du monde. Et on est allé regarder les autres entreprises des semi-conducteurs. Tout le marché en profite. Hein. On a Nvidia, on a TSMC aussi, le Taïwanais, qui est en croissance de 25%. L'Américain Broadcom, plus 50%. Le Néerlandais ASML, peu connu, mais on a un champion européen des semi-conducteurs, plus 32% depuis le début de l'année. Et le Français, le petit Français, ST Microelectronics, qui est en forte croissance de près de 25% depuis le début de l'année. Donc s'il fallait investir en début d'année, c'était dans les semi-conducteurs, il y avait de belles affaires à faire.
Voilà pour l'actualité du jour. Merci beaucoup Frédéric Bianchi. Tiens, un communiqué de presse d'Orange qui vient d'arriver, que je vais vous lire en quasi-direct. Voilà, il vient d'arriver sur notre mail. Donc les appels via le réseau mobile, c'est ce que tu disais Fred, sont perturbés depuis le milieu de cet après-midi. Les services de téléphonie fixe et les services d'internet sur mobile sont pleinement fonctionnels. C'est-à-dire que le fixe, si vous avez une box, ça fonctionne, hein, c'est les appels depuis le mobile vers d'autres mobiles. Voilà, qui marchent pas. Et en cas d'urgence, Orange recommande de joindre le 112 dont le fonctionnement est nominal. Un impact limité peut perturber toutefois les appels vers les autres numéros d'urgence. C'est ce que tu disais aussi, 15, 17 et 18. Et Orange, bien sûr, est pleinement mobilisé pour rétablir ses services dans les plus brefs délais. On suit ça de près. Merci beaucoup, Frédéric Bianchi. Et vous restez avec nous, Tech & Co, chaque soir, bien sûr, toute l'actualité tech 20h-22h en direct à la radio, à la télé, puis ensuite les replays et podcasts si vous voulez nous écouter ou nous regarder tranquillement quand vous le voulez. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Le retour de Tech & Co sur BFM Business et on va aller découvrir un petit peu le futur de la voiture Renault. En tout cas, quelques-uns des futurs modèles Renault avec nos invités ce soir. Thierry Kamal est avec nous. Bonsoir Thierry.
Bonsoir.
Directeur de la Software Factory de Renault Group. Et Geoffrey Boucaud. Bonsoir Geoffrey.
Bonsoir.
Vous êtes directeur exécutif stratégie et innovation chez Valeo. Et oui, donc ce partenariat qui a été annoncé il y a quelques jours, nouveau partenariat entre Renault et Valeo. Alors bon, vous vous connaissez bien, hein, parce que j'imagine que ça fait des années que Valeo et Renault collaborent pour plein de choses, parce que Valeo aujourd'hui est dans, allez, combien de voitures sur 100 dans le monde? Vous êtes partout.
Ça dépendra des technologies, mais entre 4 et 5 sur 10.
Ouais, voilà, c'est énorme. Hein, voilà, vous équipez énormément de véhicules. Vous êtes un équipementier automobile.
Absolument.
Et donc, Renault qui se rapproche, enfin, donc avec ce partenariat en compagnie de Valeo. Tout ça, c'est dans cette stratégie que Luca De Meo, qui est le patron de Renault, est en train de mettre en place. Hein, accélérer sur la technologie, sur l'électrique, avec Vivatech aussi, hein, en point de mire. Avec pas mal d'annonces qui vont être faites durant ce grand salon dédié aux nouvelles technologies, avec, je crois, aussi un nouveau concept car qui va être présenté. Mais présentez-nous là un petit peu, voilà, ce partenariat que vous avez mis à jour il y a quelques jours. Peut-être commencer par vous, Thierry. Pourquoi faire appel à Valeo? Parce que finalement, le hardware et le software, aujourd'hui, vous en avez chez Renault. Hein, vous avez passé des accords avec Google, etc. Qu'est-ce qui était avant et qu'est-ce qui va arriver maintenant dans le futur?
Eh bien, nous allons changer un petit peu l'architecture de la voiture. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de calculateurs dans la voiture, environ 80 par voiture. Et je dirais que chaque fois qu'on veut rajouter une fonction dans la voiture, il faut rajouter un petit calculateur, un microcontrôleur, et ça devient très très compliqué à faire. Donc quand vous voulez rajouter une fonction, il faut aller vite, et s'il faut toucher au hardware, c'est très compliqué. Donc on va vers le software defined vehicle, donc qui est le véhicule défini par le logiciel, et là, si vous voulez, on va concentrer la partie intelligence dans deux gros calculateurs, un pour la partie infotainment et multimédia et un second pour toutes les autres fonctions de la voiture. Et l'objet de ce partenariat avec Valeo, c'est ce second gros calculateur dans lequel nous allons concentrer toutes les fonctions d'assistance à la conduite, les fonctions de l'habitacle, les fonctions du châssis. Toutes ces fonctions vont être concentrées dans ce gros calculateur.
Thierry, mais vous prenez le bureau et vous jetez tout ce qu'il y a dessus, parce que vous passez de 80 calculateurs dans une voiture actuelle à 2.
On va passer à 2 gros calculateurs. Il va rester encore une 18, je dirais, calculateurs classiques.
Allez, on sera à 20.
On sera à 20. Une vingtaine de calculateurs.
On passera de 80 à 20.
Voilà. Donc l'intégration, c'est une réduction de coûts. C'est une réduction aussi dans la partie câblage qu'il y a dans la voiture.
Ça décomplexifie un petit peu le système, non, j'imagine?
Ça décomplexifie la partie logicielle.
D'accord.
Je dirais. Donc, ce qui nécessite de créer, si vous voulez, un stack logiciel, en fait, avec 3 couches, des couches de base, en fait, qui vont faire fonctionner ces fameux calculateurs, une couche middleware, donc c'est un système d'exploitation, en fait, comme vous avez dans un PC.
Ouais.
Et ensuite, une troisième couche qui est une couche applicative. Et sur ces couches applicatives, Valeo va contribuer sur la partie assistance à la conduite.
Juste une petite question sur un concurrent Tesla. Il y a combien de calculateurs dans une Tesla?
Eh bien, en 2026, Tesla aura exactement 2 gros calculateurs et à peu près une 15aine de calculateurs.
D'accord.
Voilà. Donc, nous aurons une solution
équivalente
en 2026
à ce que fait Tesla.
À ce que fait Tesla en 2026.
Pas mal.
Pas mal.
Mais en fait, on comprend que finalement, vous avez accumulé les calculateurs, je dis peut-être des bêtises, hein, mais parce que vous n'avez jamais réfléchi à ce problème en rajoutant des fonctionnalités, de l'intelligence à la voiture, sans repenser finalement les racines même de tout ça.
Eh bien, on y a pensé, mais on ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que la rapidité, en fait, pour obtenir de nouvelles fonctions sur la voiture n'était pas demandée. Alors que maintenant, il faut pouvoir mettre, si vous voulez, la voiture à jour à tout moment. il faut avoir la capacité de rajouter des nouvelles fonctions dans la voiture, il faut avoir la capacité d'extraire les données de la voiture pour en faire des services. Donc vous voyez, il y a quand même une nouvelle dimension, il y a un nouveau challenge en fait avec la donnée. Et donc c'est pour ça qu'on a tout repensé et qu'on refait tout là.
Alors Geoffrey, vous avez du pain sur la planche, j'ai l'impression.
Absolument, mais on est très enthousiaste, c'est un très très beau projet.
Est-ce que c'est un projet unique pour vous, ce partenariat avec Renault, il est unique ?
Il est unique dans le sens où on va colocaliser nos équipes, on va pouvoir être auprès du Technocentre, on va pouvoir être à Sofia, on va pouvoir être à Toulouse également, et oui, auprès de ces centres-là, directement concevoir et aider à mettre en œuvre la stratégie qui a été développée par Renault. Donc en ce sens, oui, c'est unique. C'est unique aussi parce que vis-à-vis des entreprises françaises, avoir deux grands géants comme ça qui se mettent ensemble et qui se disent, voilà, en 2026, ce véhicule sera le meilleur du marché et aura les plus grandes fonctionnalités. Et c'est pour ça que nous, on intervient Valeo, on intervient à trois niveaux, c'est ce qu'expliquait Thierry Kamal. On intervient d'abord parce qu'on est le champion du monde des capteurs, comme vous le savez. Et quand on parle d'un véhicule qu'il faut conduire et de manière plus ou moins automatisée, il lui faut des caméras, il va falloir des ultrasons. Et ça, c'est tous les capteurs qui vont accompagner le système. Ensuite, il faut construire. Donc, l'information qui est issue de tous ces capteurs, elle va être agrégée dans ce qu'on appelle des zonales contrôleurs, dans des petits contrôleurs qui vont permettre de récupérer cette information. Donc ça, c'est une partie des 12 dont parlait Thierry. Et enfin, toute cette information, elle doit être décidée dans un très gros calculateur qui est celui qu'on va développer avec Renault, ce qu'on appelle donc les gros domaines contrôleurs. Et au-delà de tout ça, après, vous rajoutez une couche software qui est en fait le développement des fonctions. Valeo, on est connu pour nos fonctions d'aide à la conduite. Mm-hmm. On est également leader mondial dans le parking. Et ce sont des fonctions et de la validation qu'on va permettre d'enrichir avec Renault.
Évidemment, plein de questions, Thierry. Vous poussez ce partenariat avec Valeo comme jamais auparavant. C'est-à-dire que là, Valeo fait les capteurs, fait toute ta partie calcul, etc., le soft. Évidemment, Valeo était un partenaire depuis de très nombreuses années. Mais là, vous allez vraiment très très loin avec eux ?
Je pense, oui. Je pense qu'on passe...
Parce qu'avant, il y avait des capteurs peut-être qui venaient de d'autres équipementiers, finalement.
Tout à fait.
Là, vous allez tout focusser, concentrer ce partenariat sur Valeo.
Voilà. Je pense que là, on passe à un autre cap. Nous avons eu une expérience déjà avec Valeo sur la Mégane i, sur lequel tout s'est bien passé. Donc, nous continuons ce partenariat plus en profondeur. Donc, si je résume le partenariat, nous définissons un petit peu l'architecture, la nouvelle architecture logiciel. Nous travaillons avec Google sur la partie système d'exploitation. Système d'exploitation qui va être étendu de la partie infotainment sur l'ensemble des autres fonctions de la voiture.
D'accord.
Voilà, donc on met un système en fait de système d'exploitation basé sur Android sur l'ensemble de la voiture. Ensuite, on travaille avec Qualcomm, comme je l'avais annoncé récemment, sur la partie puce en fait, les puces, la partie power compute, hein, pour parler français. Donc cette partie-là, on travaille avec Qualcomm, qui va aussi, comme je le rappelle, investir dans Ampère, qui va être la nouvelle société électrique en fait du groupe Renault.
Oui.
Et bien sûr, maintenant
avec Vercors, partenariat avec Vercors, entre autres, sur les voitures alpines.
Bien sûr, Vercors et puis Envision sur la partie batterie aussi. Et enfin Valeo, donc qui va nous rejoindre donc sur la partie maintenant sur ce deuxième gros calculateur dans lequel on mettra les puces Qualcomm à l'intérieur. Les puces Qualcomm seront dans ce calculateur pour les domaines de la voiture. Les puces Qualcomm seront dans la partie infotainment et on aura aussi les puces Qualcomm dans la partie télématique qui communique avec le cloud. Et on travaille avec Google aussi sur la partie, ce qu'on appelle le twin digital, le jumeau numérique de la voiture, dans lequel nous allons pousser, la simulation en fait de la voiture dans le cloud. Et là, Google nous aide sur tous les algorithmes d'intelligence artificielle. Et donc, on va utiliser leurs algorithmes pour créer des services, si vous voulez, dans un cycle qui est hors cycle de la voiture.
On parle beaucoup de Qualcomm, on ne parle pas beaucoup d'STMicro, alors que c'est un partenaire aussi de la Software République,
oui, c'est vrai,
on fait pas mal
vrai.
De choses. Il y aura malgré tout, parce qu'en fait, STMicro fait aussi des processeurs pour des véhicules, je crois déjà, entre autres. Pourquoi plutôt Qualcomm que STMicro ? C'est justement le partenariat avec Google qui...
Non, pas du tout. Je pense qu'on reste quand même agnostique en fait, des fabricants de semi-conducteurs. Mais là, on a choisi Qualcomm parce que je pense qu'aujourd'hui, ils ont une présence en fait, sur le marché qui est extrêmement importante. On a choisi STMicroelectronics sur la partie SmartMOS pour le powertrain et pour les batteries. Mm-hmm. Donc vous voyez, on a partagé entre de très grands Européens et des Américains. Voilà. Donc je pense qu'on a les meilleurs partenaires aujourd'hui pour faire ce projet.
Voilà, avec quand même donc ce partenariat, j'allais dire franco-français, Valeo-Renault, c'est plutôt une bonne nouvelle. On parle beaucoup de souveraineté, etc. etc. Peut-être une question, Geoffrey, sur... Voilà, aujourd'hui, une voiture, je le disais tout à l'heure, est un smartphone sur roue. Finalement, je ne sais pas le pourcentage de composants électroniques qu'il y a dans une voiture aujourd'hui, mais il va en augmentant. Ça pose aussi des problèmes, parce que ces voitures sont connectées, en matière de cybersécurité. Hein, et c'est aujourd'hui un vrai problème que j'imagine vous suivez de près. Là aussi, le fait de changer toute cette structure va permettre peut-être aussi d'avoir plus de sécurité dans le véhicule.
Et notamment dans la relation qui nous lie avec Renault, l'enjeu pour Valeo, c'est de pouvoir comprendre le système et pouvoir le supporter. Quand on veut aller vite, on veut aller vite et on veut pouvoir aider et comprendre tous les enjeux auxquels Renault va pouvoir faire face quand on parle de hardware, de sécurité, de design, par la sécurité, sous l'angle de la cybersécurité. Donc pour pouvoir faire ça, c'est vraiment la force d'avoir finalement assez peu d'acteurs qui interviennent. On n'a pas effectivement, comme vous le disiez avant, peut-être 10 ou 12 partenaires pour faire un seul objet.
On va être compliqué
beaucoup
de
plus resserré et du coup on est beaucoup plus proche et donc on est en confiance pour pouvoir développer de la meilleure façon la cybersécurité.
Thierry, l'idée de réduire le nombre de calculateurs, etc., c'est quoi? C'est le fait de faire comme Tesla des mises à jour on the air, voilà, on se lève un matin et puis on se retrouve avec de nouvelles fonctionnalités ou des mises à jour de sécurité.
L'idée, c'est de diminuer le nombre de composants, comme j'ai dit au début déjà, et ensuite d'avoir une plateforme logicielle qui nous permette d'avoir un objet, en l'occurrence le véhicule, toujours à jour, d'avoir une capacité d'amener de nouvelles fonctions et de décharger de nouvelles fonctions, de façon à ce que la valeur résiduelle de la voiture reste plutôt en augmentation qu'en diminution. Et ça, c'est très important avec le modèle des véhicules électriques et les locations, les LOA, etc.
On revient un peu au modèle du smartphone, en fait, où on essaie d'allonger la durée de vie des smartphones en proposant de plus en plus de mises à jour sur plusieurs années. Et on tend vers ça, vers l'automobile aussi.
Tout à fait. De plus en plus de mises à jour. Et encore une fois, donner plus de valeur à la voiture une fois que la voiture est sortie. Une fois que vous avez acheté la voiture, vous pouvez rajouter des fonctions dans votre voiture, ce qui n'était
pas le cas. Et payer des fonctions supplémentaires.
Un
peu ce qu'a annoncé Tesla aussi avec l'autoconduite, etc., etc.
Exactement.
Juste un mot. Ce partenariat aussi va permettre d'accélérer la conduite autonome, ou finalement ça devient un truc un peu nébuleux qui n'est pas près d'arriver?
La conduite autonome arrivera. Nous, Renault, nous vendons des voitures qui sont accessibles à tout le monde. Nous pensons que c'est pas la priorité pour la marque Renault de vendre des voitures avec des niveaux d'autonomie maximum. C'est plutôt les voitures de luxe, si vous voulez. Mmh. Mais avec un partenaire comme Valeo qui est très bien, comment dire, technologiquement travaille sur ces niveaux d'autonomie maximale. Je pense qu'aujourd'hui, on a le bon partenaire avec Qualcomm aussi pour faire quelque chose dans l'avenir qui nous rapproche en fait d'un niveau d'autonomie semi-automatique.
On peut imaginer que grâce à des mises à jour, petit à petit, on gagnera des points d'autonomie sur les prochains véhicules Renault.
On peut l'imaginer.
Parce que vous avez aujourd'hui des véhicules
c'est
100% autonome.
Dans le jargon, c'est niveau 2, niveau 2 plus, niveau 3, et puis après le robotaxi niveau
5.
4. Voilà, c'est ça. Et en fait, vous pouvez imaginer. Donc Valeo, on est actif, on travaille avec l'ensemble des constructeurs, y compris les nouveaux acteurs qui sont concentrés sur ces applications de robotaxi. On a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Didi également en Chine sur ces développements. L'enjeu pour nous, la raison d'être, c'est d'être capable d'avoir le développement de ces technologies qui passent par des capteurs les plus performants possibles, notamment les caméras, mais également les lidars. Vous savez, un véhicule autonome doit avoir des lidars, c'est vraiment notre conviction. Et aujourd'hui, les véhicules les plus autonomes qui existent sont des véhicules équipé de lidar Valeo. Donc c'est la capacité d'avoir ces technologies avec les coûts les plus abordables possibles pour pouvoir justement arriver et à les fournir, à les proposer dans le plus grande masse, et y compris et évidemment avec des partenaires comme Renault sur ces applications qui sont effectivement un peu plus généralistes.
Le fruit de ce partenariat arrivera quand ?
2026.
Premier véhicule. Sous cette configuration technique.
Tout à 2026. Fait. Premier véhicule.
On sait quel modèle ?
Oui, c'est un véhicule utilitaire. C'est un véhicule utilitaire qui aura un concept donc électrique, un concept, on appelle ça flexivan, donc avec différentes versions de van à l'arrière du véhicule. Et donc là, on pourra tester, si vous voulez, toute la partie upgradabilité du véhicule. D'accord. Avec des activités diverses et variées d'artisans ou autres, UPS, Amazon, etc.
Donc c'est un moyen. Donc la nouvelle R5 ne sera pas sous cette technologie.
La nouvelle R5 sera sur une technologie SDV, mais la technologie précédente.
Oui, parce qu'elle sort, elle s'apprête à sortir.
Elle va sortir.
Quand on voit le temps qu'il faut pour développer un véhicule.
On aura, si vous voulez, une véhicule définie par logiciel sur la partie plutôt, pour la partie infotainment et multimédia. Mm-hmm. Cette partie est déjà dans ce concept.
D'accord.
Et là, en 2026, sur ce premier véhicule utilitaire, on aura le concept total, global, sur l'ensemble des fonctions du véhicule.
VivaTech bientôt.
VivaTech.
Avec pas mal de surprises, dont je crois un concept car qui sera présenté, c'est ça ?
Oui, alors là, je ne vais pas...
Vous ne pouvez rien nous dire sur le H1 ST Vision,
non.
C'est ça ? Pareil qu'il y aura 20 innovations, enfin voilà, c'est quelque chose, c'est un moment important pour Renault, je crois.
Hein. C'est important pour Renault.
Eh bien voilà, mais je pense qu'on aura l'occasion, puisque nous serons nous-mêmes à VivaTech, d'en parler et de vous recevoir sur le plateau de Tech & Co. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Thierry Kamal, donc directeur de la Software Factory de Renault Group, et Geoffroy Boucaud, donc directeur exécutif stratégie et innovation chez Valeo. Merci messieurs. Il est bientôt 20h30, Tech & Co revient juste après l'info écho de Faiza Younsi. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Et voilà, on dit beaucoup de choses concernant ChatGPT, que certains élèves font leurs devoirs simplement grâce à ChatGPT. C'est plus compliqué que ça quand même. Mais malgré tout, cette intelligence artificielle conversationnelle est en train de bouleverser certaines tâches. On en parle tous les jours dans Tech & Co. Est-ce que c'est en train de bouleverser aussi la relation étudiant-enseignant ? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec nos invités. Et Romane Ricou est avec nous. Bonsoir Romane.
Bonsoir.
Bienvenue Romane. Tout va bien, pas trop stressé ?
Ça va, un peu mieux.
Étudiante en cinquième année à l'ICAM.
C'est ça.
Et Georges Constantine est avec nous. Bonsoir Georges.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant. Exactement. À l'ICAM. Étudiante, enseignant, voilà, tout le monde, pour l'instant tout va bien. Un mot sur l'ICAM, qui est une école d'ingénieurs qui a été créée en 1898, qui possède 13 campus en France, à l'étranger. Vous êtes un petit peu partout, à Lille, Paris Grand Sud, Nantes, Bretagne, Vendée, Toulouse, etc. etc. avec bientôt 10 000 étudiants, apprentis et stagiaires sur l'ensemble des sites. Et en fait, vous formez des ingénieurs généralistes, 750 chaque année, avec évidemment l'apprentissage, etc. etc. Quel type d'ingénieurs formez-vous à l'ICAM ?
Ce sont des ingénieurs généralistes, justement, comme vous venez de le préciser.
Oui.
Donc, un ingénieur généraliste, c'est un ingénieur qui touche un petit peu à tous les domaines. Et ça s'adresse surtout aux jeunes de 18 ans qui, après leur bac, ils ne savent pas exactement dans quelle thématique ou bien dans quel domaine ils veulent s'orienter. Du coup, on leur offre un panel de choix un peu plus vaste. Et c'est à eux, après, d'après les stages qu'ils vont faire, d'après les projets, les matières qu'ils vont suivre tout au long de ces 5 ans, de s'orienter à la fin vers un domaine ou bien... une thématique qui leur plaît beaucoup plus que d'autres.
Voilà, donc 750 ingénieurs généralistes diplômés chaque année en France.
Ouais.
Ok. Dont près de la moitié par la voie de l'apprentissage. Vous proposez aussi à l'ICAM des formations qualifiantes et diplômantes, allant du CAP au master spécialisé. Hein. Voilà, donc,
tout à fait.
On va dire les horizons sont larges quand même. Mais c'est ça qui est cool, hein, parce qu'il faut autant de CAP que de master spécialisé. On va évidemment questionner Romane dans un instant, mais Georges, quand vous, en novembre dernier, on a commencé à voir arriver cette vague ChatGPT, comment en tant qu'enseignant vous avez vu ce truc arriver ?
En fait, on en parle depuis pas mal de temps, et comme tout autre outil technologique révolutionnaire, il va se placer sur les bancs des accusés. Donc du coup, nous, en tant qu'enseignants, ça nous fait peur au début, parce qu'on se dit... c'est quoi cet outil ? Donc on doit peut-être s'adapter à une nouvelle méthodologie, etc. Et puis au fur et à mesure, lorsqu'on commence à solliciter les autres collègues ou bien les autres collaborateurs, donc en discutant sur l'usage, sur les bienfaits, en lisant des articles, en suivant les nouveautés sur l'outil, on commence à mieux comprendre son fonctionnement pour pouvoir commencer à cerner l'outil en général. Mais c'est vrai qu'au début, ça suscite en nous la curiosité, mais en même temps, ça fait une inquiétude pour savoir... Qu'est-ce qui va se passer après ?
En tant qu'enseignant, j'imagine que vous avez testé. Est-ce que vous avez été bluffé par ChatGPT ?
Honnêtement, oui. Donc, il a cette capacité de se situer dans le contexte. Donc, comme si tu parles à un vrai personnage. Donc, il suit le fil de la discussion, il te remet dans le contexte au cas où tu comprends pas, ou bien au cas où tu as besoin de plus de renseignements. Donc, vraiment, c'est comme un homme, c'est comme un être humain. Et ça me bluffe des fois que vraiment la technologie est arrivée à ce stade. Et c'est assez hallucinant.
Roman, novembre dernier, ChatGPT arrive. Est-ce que tout de suite, vous avez vu, la même question que j'ai posée à Georges, vous avez vu arriver cette fonctionnalité et vous l'avez testée très vite aussi?
Alors, pour être franche, non, pas tout de suite, parce que j'étais encore en entreprise, en stage sur cette période-là. Donc, c'est vraiment là, depuis que je suis rentrée en mémoire et à l'école, que j'ai commencé à utiliser ce logiciel. Et donc, non, j'avais pas vu venir tout ça. Et comme Georges, bluffé par...
Bluffé ?
Ouais. Ouais, franchement, c'est impressionnant. En tant qu'étudiant, on est assez...
Alors, c'est justement la question que j'allais vous poser. En tant qu'étudiant, c'est un outil, comme Internet est un outil à révolutionner, en fait, les études. Mais comment vous vous en servez, si vous vous en servez? Vous ou alors des collègues, enfin, des potes étudiants, quoi.
Alors, moi, là... Tous les jours, je m'en sers notamment pour m'aider à rédiger des mails, des textes, faute d'orthographe, relire un peu tout ce que je fais, parce que vu qu'on est en contact avec des entreprises, des professionnels, c'est pour être sûr que ce qu'on fait, ce soit bien français. Enfin, ce qu'on rédige, c'est bien du français. Et après, j'ai pas mal de mes camarades qui l'utilisent pour débugger des programmes, pour comprendre un peu plus des cours ou pour, comme je disais, des fois les cours sont assez complexes, les termes utilisés. On les comprend pas toujours, donc ça nous aide un peu à comprendre et à débroussailler un peu le sujet quand on est absent.
Débroussailler, c'est exactement ça. Parce que Georges, c'est vrai que au tout début et encore aujourd'hui, hein, certains étudiants, notamment dans des matières généralistes, pouvaient se servir de ChatGPT pour faire des devoirs entiers.
Oui, ça peut arriver.
Il y a eu des cas, hein, il y a eu des polémiques d'ailleurs, des profs qui ont détecté tout ça. Ça, c'est assez intéressant. Alicam, c'est quelque chose qui pouvait être mis en place, hein, des élèves qui, j'allais dire, trichaient, en tous les cas, essayaient de trouver une voie de salut avec ChatGPT pour parler correctement.
Ouais. En fait, les voies pour tricher, ça existe partout, donc pas que sur ChatGPT. Mais sur cet outil en particulier, nous, notre rôle en tant qu'enseignant, en tant que pédagogue ou accompagnateur de nos étudiants, c'est de leur faire montrer que même si l'outil il est super performant, il peut sortir des miracles des fois, mais qu'il peut quand même se tromper. Donc du coup, c'est en leur montrant comment bien se servir de l'outil qu'on leur donne la bonne méthode d'usage. Donc du coup, ils peuvent se reposer sur l'outil dans quelques recherches ou bien s'ils veulent aller plus loin dans des thématiques spécifiques, mais pas que prendre les données telles qu'elles le sont sans analyse derrière ou bien sans le regard critique d'un ingénieur. Donc c'est ça ce qu'on essaie de faire apparaître chez l'étudiant, donc le sens de critique. Donc, est-ce que lorsqu'on lit un truc sur ChatGPT, est-ce que c'est directement à 100% correct, acceptable, ou bien ça peut contenir une nuance ou bien des erreurs. Donc c'est ça, c'est intéressant pour nous de faire comprendre à l'étudiant que l'outil peut se tromper et on peut lui montrer comment, via des exemples concrets, qu'il y a des erreurs. Et c'est à travers ces exemples-là que l'étudiant va apprendre comment se servir de l'outil.
Oui, c'est ça. Roman, j'imagine que vous utilisez ChatGPT. Est-ce que ça change un petit peu votre vision de votre job, en quelque sorte? Vous êtes étudiante, vous êtes en cinquième année, pour devenir ingénieur. Dans quel, vous savez déjà un petit peu où vous voulez travailler,
oui,
ce que vous voulez faire plus tard?
Oui, ça y est. Je commence en septembre dans une entreprise qui travaille dans le BTP.
Ah, d'accord. Donc, c'est bientôt.
C'est bientôt, oui, ça arrive très vite. Mais... ma vision du job, pour moi, non, ça va pas changer grand-chose, parce que pour l'instant, moi, la manière dont je l'utilise, c'est vraiment, comme je disais, pour rédiger des mails. Enfin, c'est vraiment pas sur la technique. Je vois pas encore actuellement ce que ça va pouvoir m'apporter sur le côté technique de mon métier, enfin mon futur métier, mais plus si m'apporter du vocabulaire, des connaissances sur certains sujets, mais ça fera jamais le travail à ma place. C'est pour moi, c'est pas possible.
Mais on est d'accord, Georges, et ce sera le mot de la fin, que ça va quand même bouleverser certains métiers.
Oui, bien sûr.
Donc, on est d'accord.
Ça va changer beaucoup, mais on va s'adapter. Donc, comme toute autre invention technologique, on a eu les mêmes réactions lorsque la télé a été inventée depuis 50 ans, même plus. Oui. Le téléphone portable, les ordi, toutes les applications qu'on voit actuellement.
Donc, oui, pour vous, c'est une nouvelle innovation.
Oui, et on doit s'adapter avec cette nouvelle innovation. Donc, on va savoir comment... comment s'adapter avec, et c'est ça la clé.
Merci beaucoup à tous les deux. Voilà, il ne faut pas diaboliser ChatGPT.
Exactement.
C'est peut-être un outil d'efficacité, de productivité aussi.
Il faut savoir comment l'utiliser, c'est
exactement.
Ça.
Et voilà, joli exemple avec vous deux. Merci Roman.
Merci à vous.
On croise les doigts. Et belle entrée dans la vie professionnelle.
Donc, merci, c'est gentil.
Dans quelques semaines. Roman Ricou, donc étudiante en cinquième année à l'ICAM. Et Georges Constantine, merci Georges d'être passé aussi par le plateau de Tech & Co. Vous êtes enseignant à l'ICAM. On revient dans un instant. On va vous faire découvrir une start-up étonnante qui transforme les vitres en support vidéo simplement avec vous allez voir, comme une espèce de scotch. Mais c'est un truc totalement révolutionnaire. Ça s'appelle Coco qui colle. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
On va parler de signalétique maintenant. Alors c'est très B2B, mais finalement c'est aussi B2B2C parce que waouh, quand on voit ces vitrines illuminées avec des écrans grâce à une technologie étonnante, franchement ça intéresse tout le monde. Et il y a énormément de tech dans cette technologie qui s'appelle Coco qui colle. Et c'est Eric Lebalc qui est avec nous. Bonsoir Eric.
Bonsoir, merci de me recevoir.
Vous êtes le fondateur de cette entreprise qui transforme donc les vitres en support vidéo. Et c'est vrai qu'on est très heureux de vous recevoir parce que vous allez le voir si vous êtes avec nous à la télé, il y a des vidéos qu'on va vous montrer qui sont assez bluffantes. Vous êtes donc B2B, hein, puisque vous créez des animations, vous habillez des vitrines, etc., etc. Présentez-nous ce que vous faites, s'il vous plaît.
Alors, en fait, nous, on travaille dans le domaine de la signalétique. Alors, on est peut-être de la même génération, ça date un peu maintenant.
Oui.
En fait, ce qui est intéressant dans l'évolution de notre marché, c'est qu'au tout départ, vous avez peut-être connu ça, il y avait les peintres en lettres, ceux qui venaient et qui décoraient les vitrines en écrivant.
C'est ça.
Ensuite, on a une évolution du marché où ensuite, on a pu faire des lettres découpées en adhésifs. Donc là, l'adhésif a été intégré au marché. Et ensuite, on est passé à l'ère du numérique, où là, on avait l'impression numérique. Donc là, on pouvait imprimer des visuels, des quadrilles, des photos. Et maintenant, on rentre dans une nouvelle ère qui est l'affichage dynamique. Donc, on peut utiliser maintenant un film adhésif qu'on va pouvoir appliquer sur des espaces vitrés et un peu dans tout type de largeur. En fait, on fait vraiment du sur-mesure pour diffuser de la vidéo, ce qui est assez étonnant.
Voilà, parce que si vous êtes avec nous à la télé, mais on va un petit peu vous décrire à la radio. Imaginez une immense baie vitrée. D'accord, sur laquelle, vous allez pouvoir poser donc votre
film adhésif, absolument.
D'accord, qui est connecté à quelque chose, j'imagine. Hein,
un ordinateur, c'est
un ordinateur. Il y a de l'énergie aussi, j'imagine.
Oui. Hein. Alors on reste sur de la LED, donc la consommation électrique est quand même très basse.
D'accord,
ce qui est très intéressant d'ailleurs.
En gros, c'est un peu comme les guirlandes électriques qu'on a sur le sapin, mais mille fois plus tech. En quelque sorte.
Absolument.
C'est ça.
C'est dans le même esprit, ça permet de diffuser de l'image, ce qui est très intéressant.
Donc derrière tout ça, il y a un ordi, derrière ou un flux vidéo.
Absolument. Il y a beaucoup de composants électroniques dans tout ça, mais ça permet vraiment de diffuser de la vidéo. On n'est pas sur du film adhésif. On fait aussi tout ce qui va être marquage de véhicules, les banderoles, les panneaux. Là, dans ces nouvelles technologies, on va utiliser un film qui est plus épais que le film classique pour véhicule, qui fait quelques microns. Là, on est plutôt sur du 1 à 2 mm d'épaisseur, dans lequel est intégré un réseau de LED, en fait, qui sont connectés entre elles et qui permettent justement de pouvoir diffuser ensuite. Alors, quelqu'un de lambda qui va peut-être faire une vidéo, on peut prendre presque une vidéo YouTube qu'on va pouvoir envoyer.
Parce qu'on se dit, et c'est vrai que c'est très spectaculaire, donc je vous invite à regarder le replay si vous êtes avec nous à la radio, parce que franchement, c'est impressionnant. On se retrouve avec un immense écran. Voilà, un peu comme au cinéma, et diffuser donc ce qu'on veut. Vous disiez une vidéo YouTube, mais aussi pour une vitrine, ça peut être des produits promotionnels.
Absolument.
Des choses.
Alors là, il y a un gros travail graphique quand même sur celui-ci en amont, parce qu'après, il y a quand même du boulot graphique pour pouvoir projeter la vidéo. Là, on est vraiment sur de la 3D, des choses assez précises. Mais par contre, on pourrait diffuser aussi la vidéo tout à fait standard de quelqu'un qui a fait une vidéo dans la rue.
Voilà. Ouais, c'est ça qui est dingue. Alors, il faut un peu de recul, j'imagine, pour apprécier le résultat, parce que évidemment on n'est pas devant un écran 4K, donc il faut avoir un peu de recul pour qu'on puisse profiter du spectacle.
C'est tout l'intérêt effectivement de cette technologie aussi, c'est que le film est transparent. Donc vous voyez au travers de la vitrine, vous pouvez voir les vêtements, les produits que propose un commerçant.
Ouais.
Et ça, c'est si vous vous rapprochez assez proche du film. Ensuite, avec la distance, vous voyez une vidéo effectivement pour promouvoir le produit. Ça, c'est très impactant et ça touche beaucoup les passants en fait. C'est un peu l'intérêt. Il y a une étude qui est sortie en octobre 2022, donc assez récente de l'Ipsos, qui disait qu'il y avait 80% des marques qui utilisent cette nouvelle technologie et qui expliquaient que, en fait, ils affirment qu'ils ont vraiment un gain de chiffre d'affaires avec cette nouvelle technologie. Oui, parce que ça fait rentrer les gens.
Parce que ça attise le chaland.
Absolument.
Je veux dire, ça attire le chaland.
Absolument.
Et ça l'attise aussi, en effet. Est-ce que on peut imaginer qu'on est aux prémices, en fait, d'une espèce de tapisserie qu'on pourrait coller, parce que vous voyez les évolutions technologiques arriver. Ouais.
Alors,
on est près de cet écran un peu qui nous fait rêver, magique, que l'on pourrait tapisser sur le mur du salon pour avoir une grande télé.
On y arrivera, c'est sûr. Après, en France, sur la publicité, on a quand même des lois qui sont assez strictes. Je parle par rapport à la pollution visuelle, par exemple.
Ouais,
on sait
ouais.
que oui. aujourd'hui, dans les villes en France, les enseignes doivent être éteintes à partir de 1h du matin jusqu'à 6h. Donc, on est quand même encore un peu frileux sur nos lois. C'est vrai que quand on va dans des pays asiatiques, on voit énormément de choses, beaucoup plus qu'en France, en fait.
Oui, où c'est allumé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Absolument. Donc, c'est je ça. Pense que ça va évoluer vers ça, mais il faut aussi que la législation française accepte ça et... Voilà.
Éric Le Balc, c'est pas compliqué de défendre ce type de produit technologique, alors justement que voilà, on est dans une situation où l'énergie coûte cher, etc. C'est pas une équation compliquée, parce que au-delà du fait de l'éteindre à 22h, si s'allumer la journée, c'est l'énergie supplémentaire qui est consommée, non ?
Oui, mais on reste encore sur de la LED, et aujourd'hui, ce sont vraiment les nouvelles technologies qui consomment le moins d'énergie, donc on est vraiment sur quelque chose d'une consommation D'accord. très basse. Après, de la même façon, on a d'autres produits aussi. Oui. Hein, au-delà de ce produit dont on parle là, on a un produit à base de cristaux liquides, par exemple. Ça, c'est extrêmement étonnant. C'est-à-dire que vous avez une vitre transparente et simplement avec votre smartphone, vous allez pouvoir l'opacifier ou la rendre transparente.
J'ai vu ça dans la série Ted Lasso.
Ah oui, peut-être.
Justement, il y a l'une des héroïnes qui a un bureau et puis elle appuie et s'amuse avec son smartphone pour opacifier
oui, tout à fait.
Ensuite le bureau qui est en open space en quelque
Absolument,
sorte, mais qui est fermé.
C'est ça.
Et c'est assez impressionnant. Merci beaucoup, Eric.
Mais merci à vous. Merci
ça s'appelle Coco qui colle.
Il n'y a que des cas, vous verrez sur un clavier, c'est très proche. Les lettres se touchent toutes, ben voilà. C'est super.
Ben, si vous êtes intéressé, pourquoi pas.
Merci voilà. beaucoup.
Merci beaucoup, Eric Le Balc, qui est tout de suite direction New York. On retrouve. Comme chaque soir, Sabrina Cagliozzi.
Tech & Co. What's up New York?
Bonsoir Sabrina. Tiens, on parlait justement de toutes ces lumières qui s'affichent
Bonsoir,
dans les magasins.
François.
Il y en a quand même pas mal derrière toi, hein, ben justement à Times Square. Merci d'être là.
Comme ça, ouais.
Sabrina.
On connaît ça ici, ouais.
On va parler de Nvidia, tiens, pour débuter, avec, eh bien voilà, ce cap franchi, hein, des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est énorme.
C'est complètement fou, on ne parle que de cela à Wall Street. Nvidia, c'est une société qui a été fondée il y a 30 ans. Alors non pas dans un garage, mais suite à un meeting dans un restaurant Denny's à San José, en Californie. C'est aujourd'hui donc le fabricant de semi-conducteurs au cœur de cette révolution de l'intelligence artificielle qui vient d'entrer dans ce club très fermé des 1000 milliards, des entreprises hein, de plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière aux côtés de boîtes américaines comme Apple, Alphabet, Amazon et Microsoft. Alors contrairement à ces entreprises, Nvidia, c'est pas un nom connu du grand public. Et pourtant, alors nous on connaît bien, on en parle tous les jours, mais pourtant ces puces sont devenues indispensables. Elles sont utilisées dans les PC, dans les voitures, dans les robots. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ce sont elles qui pilotent les fameux chatbots et autres outils que les plus grandes sociétés du monde s'empressent de déployer. Nvidia, c'est le leader mondial des processeurs graphiques, ces fameux GPU. Des puces qui étaient initialement destinées à améliorer la création d'images, mais dont l'utilisation a été étendue du fait de leur capacité de calcul très importante. Ils sont devenus un outil indispensable dans ce développement de l'intelligence artificielle. Si on regarde un petit peu l'histoire d'NVIDIA, hein, son grand succès, bah c'est en dehors du jeu vidéo, hein, ça a été l'extraction de crypto ou les GPU. Se sont également avérés compétents. Ça a permis à Nvidia, d'ailleurs en bourse, de dépasser le géant des puces Intel en 2020 pour atteindre un record
fin 2021, puis s'est installé l'hiver crypto qui a fait chuter ce titre Nvidia en bourse, qui s'est donc par la suite repris et de plus belle, surfant sur cette vague de l'intelligence artificielle. Les analystes estiment d'ailleurs que le boom de l'intelligence artificielle est beaucoup plus prometteur et plus durable pour Nvidia que celui des cryptos. La société n'a actuellement aucun concurrent qui puisse l'égaler dans sa gamme de puces et de logiciels pour les demandes informatiques intensives de l'intelligence artificielle générative. Et ça se voit donc en bourse aujourd'hui avec ce cap complètement fou. C'est la première société des premiers fabricants de semi-conducteurs à entrer donc dans ce club très fermé. C'est un titre qui a quand même pris 240% depuis le mois d'octobre, 170% depuis le début de l'année. On est actuellement sur ce titre Nvidia à 403,07 $. C'est une progression de 3,49%. Ça s'essouffle un tout petit peu. On va regarder les 404,85 $. C'est ce seuil. On est juste en dessous du seuil des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Mais on l'a franchi donc ce matin. On verra si on y parvient, si on parvient à repasser au-dessus, à terminer au-dessus de ce seuil important pour ces sociétés cotées en bourse. Nvidia, donc, qui continue son explosion en bourse et donc en ce moment grâce à l'intelligence artificielle.
Alors justement, tiens, Nvidia, belle transition. Nvidia qui soutient une start-up qui s'appelle Serve Robotics, qui construit en fait des robots de livraison de trottoirs autonomes. Je m'en souviens, tu nous en avais déjà parlé, Sabrina, il y a quelques mois de cela. Mais qui étend son partenariat avec Uber Eats. Donc, eh bien, ces robots vont livrer des plats. Alors, je ne sais pas où aux États-Unis, mais tu vas tout nous expliquer.
Oui, on en avait parlé déjà ensemble, c'est une société qui a développé ces robots, petits robots autonomes de trottoir qui sont capables de fonctionner au niveau 4 d'autonomie, ça veut dire que ils peuvent gérer tous les aspects de la conduite dans certaines conditions sans intervention humaine. Pour se déplacer efficacement, ils sont ainsi équipés de la plateforme IA Jetson Edge de Nvidia, effectivement, la start-up utilise également les outils de perception, de cartographie d'Nvidia qui aide ces robots à comprendre où ils se trouvent dans l'environnement et où ils doivent se rendre. Nvidia a d'ailleurs investi l'année dernière 10 millions de dollars dans la société Serve Robotics, qui prévoit donc aujourd'hui de déployer jusqu'à 2000 de ces petits robots autonomes de livraison via la plateforme Uber ici aux États-Unis. C'est un partenariat qui va durer jusqu'en 2026. Cette collaboration entre Uber et Serve Robotics a en fait débuté l'année dernière en tant que projet pilote. Leur partenariat a débuté à West Hollywood et depuis, les livraisons robotisées de Serve via Uber ont augmenté de plus de 30% par mois. Aujourd'hui, plus de 200 restaurants de West Hollywood, Hollywood et Fairfax y participent et la start-up envisage donc de se développer encore plus dans les marchés désormais de San José, Dallas ou encore Vancouver. Elle a récemment mené des essais pilotes avec Walmart en Arkansas ou encore Pizza Hut à Vancouver. Donc, on se déploie petit à petit et on voit ces tout petits robots-là se déplacer dans les rues. Alors, pas encore à New York, mais on espère bientôt. Sauf que ça reste quand même d'être assez compliqué. Il y a quand même beaucoup de passages ici à New York. Mais on verra. Donc, belle actualité aujourd'hui pour cette société qui attend son partenariat. Donc.
Voilà. Est-ce qu'un jour tout ça arrivera en France ? Eh bien, on croise les doigts. Merci beaucoup, Sabrina. Sabrina Cagliosi, donc correspondante à New York pour BFM Business. Et vous restez avec nous. On attaque dans un instant notre deuxième heure de Tech & Co avec plein de bonnes choses. Comme par exemple ces astronautes chinois, dont un civil qui ont décollé pour la station spatiale chinoise. C'était hier soir. On va en parler avec Jean de Chambure, Antoine Meunier et Benoît Ranini dans quelques instants. Et puis notre plongée dans la French Tech, comme chaque mardi soir. Avec Kerr et Ilek ce soir. On va parler d'énergie, entre autres. Vous restez là, bientôt 21h. L'info du jour, l'infotech du jour, avec Frédéric Bianchi ce soir et on revient. A tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
L'actualité de la tech en ce mardi soir, c'est avec Frédéric Bianchi. Bonsoir Fred.
Bonsoir François.
Et peut-être l'avez-vous remarqué, si vous êtes abonné Orange, c'est un peu compliqué de passer des appels depuis, 2-3 heures. Orange commence à communiquer sur le sujet, notamment sur Twitter. Bien voilà, il y a des problèmes de réseau chez Orange.
Oui, depuis... Alors il y a eu déjà un premier problème ce matin qui aurait duré une trentaine de minutes sur le réseau 4G, mais il a, semble-t-il, pris de l'ampleur. Ça fait maintenant, depuis le milieu de l'après-midi, que c'est un certain nombre d'usagers se plaignaient. Dans les grandes villes, Paris, Marseille, Lyon ou Bordeaux, c'est ce qu'indique l'article du site Tech & Co. Donc Orange a été contacté, il confirme effectivement qu'il y a un problème. Alors il n'explique pas la nature du problème, si c'est une panne, si c'est un piratage, si c'est un bug informatique, on ne connaît pas la nature du problème. En tout cas, le problème est assez sérieux, il ne concerne que le réseau
vocal,
le réseau vocal.
Que les appels, parce qu'Internet fonctionne, à 4G
fonctionne, exactement. Fonctionne. Si vous voulez appeler vos amis, vous pouvez utiliser les services type WhatsApp ou autre pour les appeler, donc en passant par le réseau data. En revanche, les appels vocaux ont des difficultés, et ce qui est problématique, c'est que les appels d'urgence, les numéros d'urgence comme le 15 ou le 17, sont difficilement accessibles, explique Orange, sont touchés dans des proportions limitées, mais Orange conseille d'appeler le 112 si on a une urgence. Donc si vous êtes chez Orange et que vous avez une urgence, 112 en priorité.
Voilà, et on essaiera de suivre cette actualité parce que c'est important quand même. Orange, premier opérateur de France qui rencontre ces problèmes de réseau actuellement. Dans l'actualité aussi, nouvelle un petit peu plus réjouissante, c'est cette première gigafactory française. Elle se situe très précisément à Billy-Berclos. C'est dans le Pas-de-Calais, Fred. Comme ça, tu révises en même temps ta géographie. C'est la première usine française de conception de batteries électriques. Inaugurée aujourd'hui donc par 3 ministres, ainsi que par les patrons de Total, Stellantis et même de Mercedes, qui fait partie prenante de ce projet. Justine Vassogne était sur place pour BFM Business.
Oui, en effet, c'était une inauguration en grande pompe ici à Billy-Berclos, avec cette image assez rare de 3 grands patrons de l'industrie européenne réunis. Le patron de Mercedes, celui de Total, Patrick Pouyanné, et celui de Stellantis, Carlos Tavares. Les 3 hommes ont visité la Gigafactory en compagnie de Bruno Le Maire. Carlos Tavares lui a d'ailleurs lancé: elle est concrète, cette usine, tu peux la toucher si tu veux, parce que Billy-Berclos, c'est la première Gigafactory sur le sol français. C'est un site impressionnant de 34 hectares qui comptera au total 180 000 mètres carrés d'ateliers. Alors on n'a pas vu de batterie aujourd'hui, la production en grande série ne débutera qu'à la fin de l'année. On est encore dans une phase d'apprentissage, nous a dit Carlos Tavares. On va apprendre à faire du volume, on va se tromper, on va tomber et puis on va régler les problèmes. L'important maintenant, c'est d'être compétitif, a lancé de son côté Patrick Pouyanné. Alors que la France et l'Europe, on le sait, ont plusieurs trains de retard sur l'Asie et sur la Chine en termes de véhicules électriques, cette usine n'est qu'un début, a de son côté souligné Bruno Le Maire, qui a appelé à investir plus encore sur les matériaux rares, sur le raffinage. L'Europe, selon le ministre de l'économie, doit maintenant montrer ses muscles industriels.
Voilà, Justine Vassogne qui était sur place donc à Billy-Berclos pour BFM Business. Voilà, c'est une bonne nouvelle.
Bonne nouvelle, et on voit que l'Europe rattrape son retard. Ouais. Je me souviens, on faisait des émissions en disant la France, l'Europe,
où sont les gigafactories,
vont être dépendants des États-Unis et de la Chine. Et bien là, on voit dans toute l'Europe à des dizaines de gigafactories qui sortent rien qu'en France. Donc on a ACC, mais on a 3 autres gigafactories dans le nord de la France, la Battery Valley, comme on va l'appeler, avec le chinois AESC, la start-up française Verkor, et évidemment le taïwanais Prologium, qui a annoncé la plus grande des gigafactories qui devrait ouvrir à Dunkerque dans les prochaines années.
Voilà, Verkor, beau projet, français aussi industriel, qui a été récompensé par les Tech for Good Awards. C'était vendredi soir sur BFM Business. Dans l'actualité, on va parler d'IA avec cette nouvelle peu réjouissante, Fred. Les experts alertent sur les menaces d'extinction pour l'humanité à cause de l'IA.
Exactement, et c'est pas n'importe qui alerte, c'est Sam Altman en personne, monsieur...
Le papa de ChatGPT.
Monsieur OpenAI, le papa de ChatGPT et de GPT-4, alors qu'il n'est pas à sa première sortie sur le sujet, mais qui revient, qui signe un texte publié sur le site internet du Center for AI Safety, c'est une organisation à but lucratif aux États-Unis, il y a des grands signataires qui sont avec lui autour de ce texte. Geoffrey Hinton, évidemment, qui lui aussi le père, un des pères de l'IA générative, hein, qui a quitté son poste chez Google, qui se joint donc à Sam Altman, pour prévenir encore une fois l'humanité, les gouvernements, les organisations internationales sur les risques liés à l'IA. Alors c'est pas les seuls, voilà. C'est depuis quelques mois, on a une cohorte, on a Elon Musk, on a ces grands patrons là, qui préviennent. Attention, il va falloir légiférer. Il va falloir aussi laisser quand même se développer ces technologies là. Le Sam Altman a vu la semaine dernière Emmanuel Macron, en a discuté avec lui et il espère trouver le juste équilibre entre la protection des consommateurs, la protection des citoyens aussi, parce que ça peut évidemment truquer des élections avec l'IA, mais aussi la laisser se développer pour avoir un impact positif. On voit que cette nouvelle technologie vraiment n'arrête pas de poser question, et même, et ça c'est une première quand même, aux industriels eux-mêmes.
Dans l'actualité aussi, ce chiffre qui donne le tournis, 1000 milliards de capitalisation, c'est une première pour un constructeur de semi-conducteurs. Il s'agit de Nvidia.
C'est Nvidia, on en avait parlé les semaines précédentes. Ouais. L'annonce des résultats avait été stratosphérique. Nvidia prévoit un chiffre d'affaires de 11 milliards, c'est-à-dire une croissance de 60% au prochain trimestre. Donc, les investisseurs, quand on leur dit croissance de 60% du chiffre d'affaires, ils se précipitent sur l'action. L'action a bondi de 30% depuis l'annonce des résultats trimestriels la semaine dernière. On est à 180% de hausse depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier. Alors pourquoi Nvidia ? Nvidia, c'est pas que les cartes graphiques de nos ordinateurs et de nos consoles de jeux, mais c'est aussi les semi-conducteurs essentiels qui vont être utilisés pour l'IA générative. On sait que ce sont des technologies qui ont besoin de cartes graphiques. C'est Nvidia qui va leur fournir. Donc voilà, Nvidia explose en bourse. C'est devenu aujourd'hui, en cours de séance, alors elle est un peu tombée depuis, mais on est quand même sur une hausse de plus de 3,5%, la sixième entreprise la plus valorisée du monde. Et on est allé regarder les autres entreprises des semi-conducteurs. Tout le marché en profite. On a Nvidia, on a TSMC aussi, le Taïwanais, qui est en croissance de 25%. L'Américain Broadcom, plus 50%. Le Néerlandais ASML, peu connu, mais on a un champion européen des semi-conducteurs, plus 32% depuis le début de l'année. Et le Français, le petit Français, ST Microelectronics, qui est en forte croissance de près de 25% depuis le début de l'année. Donc s'il fallait investir en début d'année, c'était dans les semi-conducteurs, il y avait de belles affaires à faire.
Voilà pour l'actualité du jour. Merci beaucoup Frédéric Bianchi. Tiens, un communiqué de presse d'Orange qui vient d'arriver, que je vais vous lire en quasi direct. Voilà, il vient d'arriver sur notre mail. Donc les appels via le réseau mobile, c'est ce que tu disais Fred, sont perturbés depuis le milieu de cet après-midi. Les services de téléphonie fixe et les services d'internet sur mobile sont pleinement fonctionnels. C'est-à-dire que le fixe, si vous avez une box, ça fonctionne, c'est les appels depuis le mobile vers d'autres mobiles. Voilà, qui marchent pas. Et en cas d'urgence, Orange recommande de joindre le 112, dont le fonctionnement est nominal. Un impact limité peut perturber toutefois les appels vers les autres numéros d'urgence. C'est ce que tu disais aussi, 15, 17 et 18. Et Orange, bien sûr, est pleinement mobilisé pour rétablir ses services dans les plus brefs délais. On suit ça de près. Merci beaucoup, merci Frédéric Bianchi. Et vous restez avec nous, Tech & Co, chaque soir, bien sûr, toute l'actualité tech. 20h, 22h, en direct à la radio, à la télé, puis ensuite les replays et podcasts si vous voulez nous écouter ou nous regarder tranquillement, quand vous le voulez. A tout de suite.
Tech & Co, le débrief de la tech.
Oui, un débrief spécial spatial et spécial puissance chinoise spatiale. Avec nos invités que je vous présente tout de suite. Jean de Chambure est avec nous. Salut Jean.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Voilà, dès qu'on évoque la technologie chinoise, Jean de Chambure n'est pas loin. En plus, c'est un sujet qui te passionne, l'espace, donc on est très heureux de te retrouver pour parler de tout ça. Consultant chez JDC Advisory et bureau des éveilleurs.com. Antoine Meunier aussi. Bonsoir Antoine.
Bonsoir François.
Rédacteur en chef du site La Chronique Spatiale.com. Et nous accueillons Mathieu Lebeur ce soir. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir François.
Partenaire donc chez TNP. TNP qui est une société qui accompagne les grandes entreprises à leur transformation numérique. Et l'espace est un sujet que vous suivez forcément parce que aujourd'hui ça représente des centaines de milliards et donc il faut être au fait de tout ça, c'est ça ?
Exactement. Alors, on a eu une démarche un petit peu mercantile au départ. On s'est dit un marché de 500 milliards en forte croissance.
On ne peut pas passer à côté.
On peut plus de 7%, on ne peut pas passer à côté. Et on a voulu être spécifique parce que quand vous parlez à un industriel de l'automobile, vous devez avoir des connaissances sur l'automobile, sur les évolutions, les marchés futurs, les ruptures technologiques. Nous, notre métier numéro un, c'est la transformation. Donc, si on passe à côté de cette transformation majeure qu'on est en train de connaître, et l'aérospatiale et l'émergence de la Chine. Bon, voilà. Ouais. Donc on a voulu s'y mettre. On s'est entouré de forts spécialistes qui ont de l'expérience dans le domaine aussi bien militaire que dans le domaine civil, pour que notre discours soit pertinent. Après, on a évidemment une approche assez classique d'un cabinet de conseil, d'optimisation, de conquête de marché. Et surtout du traitement de l'information du digital, parce qu'à la fin de la journée, si vous n'avez pas la data, si toutes les belles informations que vous collectez de l'espace, vous n'en faites rien. Bon, c'est bien dommage.
Et ben voilà, vous allez pouvoir commenter toute cette actualité qui est riche, hein, Antoine, puisque ça s'est passé cette nuit, donc la nuit de lundi à mardi, le lancement de la mission Shenzhou 16 qui embarque à son bord trois astronautes, dont pour la première fois un civil. Alors raconte-nous ce qui s'est passé cette nuit.
Ben on a envoyé, enfin la Chine a envoyé son cinquième équipage en direction de sa station spatiale, la station spatiale chinoise, ou CSS, ou Tiangong 3, parce qu'il y a eu deux petites stations au cours des années passées. Au cours de ces cinq missions écoulées depuis deux ans, on a d'abord une phase d'assemblage de cette station. Elle n'est pas très grande, enfin elle est quand même imposante, hein, malgré tout. Ce sont trois modules qui sont connectés en forme de T, et l'ensemble fait à peu près 60 tonnes. C'est pas aussi grand que l'ISS, mais aujourd'hui, la Chine peut occuper de manière permanente, avoir une présence humaine permanente dans l'espace.
Et autonome.
Et autonome, et parfaitement autonome.
C'est ça qui est incroyable. On en parle peu de ce truc-là, mais...
Et surtout que ce sont des missions de 6 mois maintenant. La première mission à bord de cette station, c'était 3 mois, et maintenant on est passé vraiment à des durées qui sont tout à fait similaires à celles de l'ISS.
Il faut savoir que c'était en 2003 que la Chine envoie le premier Chinois dans l'espace. Il s'appelle Yang Liwei et il réalise 14 fois le tour de la Terre en 21 heures.
Oui, une mission très très courte.
C'était il y a 20 ans.
C'était il y a 20 ans, mais à cette époque, la Chine a acquis le statut de puissance qui peut à son tour envoyer des hommes dans l'espace. Avant la Chine, seule la Russie et les États-Unis pouvaient envoyer par eux-mêmes des êtres humains dans l'espace. Mais la Chine, là, a acquis la troisième marche du podium.
Ouais. Cette ISS chinoise est à peu près à la même orbite que l'ISS. Alors,
elle est à peu près à la même orbite, mais pas sur le même plan, pas sur la même inclinaison et pas tout à fait sur le même plan orbital. Donc il n'y a pas de risque de collision.
De collision, etc.
À craindre. Il faut tenir compte des latitudes. On lance depuis l'Asie, tandis que ce soit au Kazakhstan ou depuis Cap Kennedy, on ne va pas tout à fait lancer dans la même direction. Donc là, compte tenu de ces positions, il n'y a aucun risque de collision.
Voilà, et donc c'est un événement spatial important. Jean, et c'est étonnant parce qu'en 1957, donc le RSS place en orbite terrestre le premier engin de fabrication humaine qui était Spoutnik. Il faut le rappeler quand même,
c'est
vraiment la préhistoire du spatial. Et le fondateur donc de la République populaire de Chine, Mao Tse-tung, à l'époque avait dit nous aussi nous fabriquons des satellites. Non seulement ils en fabriquent, mais en plus ils envoient des hommes dans l'espace.
D'ailleurs, je crois que c'est le nom de la rampe de lancement des fusées chinoises s'appelle la Longue Marche, en référence à Mao Tse-tung. Donc tout ça est très dans le long terme.
Longue Marche, c'est une famille de lanceurs maintenant.
C'est ça, c'est une famille de lanceurs, mais c'est surtout évidemment
un message politique, une référence, un hommage
direct. Et donc on voit aussi toute la stratégie de la Chine qui est bien sûr sur le long terme, très ancrée, avec quand même quelques dattelés. Tu rappelais effectivement donc 2003, le premier taïkonaute, comme ça qu'on dit en général pour les êtres humains qui partent dans l'espace en Chine. Une année un peu pivot, plus géopolitique, un peu plus cachée, qui est 2014. 2014, où il y a un premier partenariat Russie-Chine. 2014, c'est quand même l'année aussi où la Russie envahit la Crimée. Donc, première phase d'isolement aussi de Vladimir Poutine, qui renforce d'un point de vue technologique ses accords avec les Chinois. Et d'ailleurs, le poids que tu mentionnais, que vous mentionniez sur la station spatiale chinoise, c'est à peu près le même que la station Mir. Hein.
C'est les mêmes. En termes de taille, c'est pas les mêmes morphologies. C'est plus ou moins la même.
Il y en a un qui est un T, l'autre qui est une étoile, mais bon, il y a peut-être quelques points techniques de convergence entre ces deux espaces.
Bon. Pourquoi la Chine fait ça dans son coin? J'imagine qu'il y a eu des collaborations internationales.
Oui, mais les États-Unis.
Et les États-Unis, etc.
Les États-Unis sont très aussi prudents, pour être poli, excluants, hein, si on est un peu plus direct. Parce que la Chine a souhaité au départ collaborer avec eux sur. Mais ça fait depuis longtemps, en fait, la méfiance chino et la concurrence chino-américaine est finalement très ancienne. Elle est très exacerbée en ce moment, mais elle existe depuis très longtemps. Au départ, lorsque la station spatiale américaine émergeait, lorsque la Chine était en pleine croissance, ils ont tenté à un moment donné de s'arrimer à ce projet-là.
Ah oui.
Les États-Unis ont clairement, il y a des notes hein, des services secrets américains, ça remonte à tout niveau, ils ont dit non, nous on veut bien éventuellement collaborer, comme c'est le cas récemment avec les compétences européennes spatiales, mais pas de collaboration avec la Chine. Donc voilà, nécessité de lancer par eux-mêmes et fierté aussi nationale. Il y a quand même un élément moi que je trouve absolument magique dans ces lancées chinoises, c'est ce que j'appelle la Thomas Pesquet chinoise. Génial. Cette personne-là, il y en a deux en fait, hein, pour être précis. Il y a deux Chinoises qui sont montées dans l'espace, mais il y a donc une personne qui a donné des cours à peu près 60 millions de Chinois, des cours de sciences physiques en direct depuis l'espace.
Tu nous en avais parlé. Formidable.
Et ça, c'est quand même fabuleux, je trouve.
C'est vrai, si on compare la collaboration qui peut exister entre les pays occidentaux et la Chine, si vous comparez avec l'Inde, c'est de nature totalement différente, parce qu'à l'Inde, il y a une collaboration qui est plus proche, il y a moins de craintes. Et même si les budgets sont pas pareils, hein, c'est à peu près 6 milliards pour de budget étatique pour la Chine. Et
oui, 10, je crois qu'ils sont sur 10 et 24 pour les US.
Voilà c'est ça. Et l'Inde, c'est 1,5 milliard, 2 milliards, mais en croissance également. Mais on a moins de réticence à collaborer avec l'Inde qu'avec la Chine, ce qui explique un petit peu... cette moindre collaboration actuellement.
Et après, si on englobe ça dans tout le progrès technologique chinois, rappelons-nous juste que la semaine dernière, la Chine annonce, alors ce ne sont que des avions, mais enfin quand même, c'est le premier avion chinois pour des vols intérieurs, avec le premier vol Shanghai,
j'ai envie de dire Shanghai, un Airbus chinois,
le Comac.
Oui, le Comac, le C-919 pour les intimes, mais voilà, c'est cet avion avec juste une rangée, mais qui fait des vols intérieurs. Donc, on voit que là, mais grosse nuance là, attention sur cet avion, moteur produit par Safran et General Electric. Tout n'est pas que chinois dans cet avion, attention. Donc là, on est encore dans une logique un peu de collaboration industrielle.
Parce que l'expertise chinoise en matière d'aéronautique n'est pas totale. On voit qu'il y a des usines Airbus, d'ailleurs, en Chine. Je veux dire, il y a eu un transfert technologique qui a été fait, d'ailleurs.
Il y a un transfert technologique. Il faut se rappeler aussi que quand vous travaillez sur une innovation en Chine et que vous êtes une entreprise étrangère, vous bénéficiez de réductions d'impôts aussi, assez substantielles sur vos bénéfices. Vous êtes taxé à 15% au lieu de 35%. C'est pas neutre. Et là, les arguments, on se pose toujours la question, est-ce qu'il y a propriété intellectuelle, oui, non, comment est-ce qu'on fait par rapport à la Chine? En gros, le sujet, c'est vous mettez Danone et vous mettez Airbus. Pardon, j'ai rien contre Danone et je ne veux pas glorifier Airbus, mais on comprend bien que le travail incrémental d'innovation, de difficulté à arriver vers quelque part qui est semblable à un avion, ça prend des décennies. Quoi.
Oui, mais cet avion chinois, après on reviendra à l'espace bien sûr, n'a rien d'Airbus finalement.
Non, pas à ma connaissance. Non, c'est
alors
vraiment.
Alors est-ce qu'il y a eu malgré tout un transfert de technologie parce qu'on sait que.
Le moteur, mais.
Peut-être. La silhouette peut-être.
Voilà, la silhouette après.
Oh, bon, c'est un avion avec deux ailes.
Voilà.
Vous avez un écosystème.
On n'est plus à l'époque de Léonard de Vinci, hélas, peut-être. Donc il n'y a peut-être plus toutes ces fantaisies sur
les lois de l'aérodynamique restent partout.
Semblables. Mais c'est vrai que c'est étonnant. C'est un avion qui est une vraie fierté aussi chinoise.
Absolument.
Une
réussite, je pense, pour l'instant, en tout cas.
Antoine, revenons à ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce que font les Chinois dans l'espace en ce moment? Ils font des tests comme font
travail scientifique, poursuite de l'activation, entretien de la station de cette station spatiale qui est vraiment au tout début de sa carrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que les modules qui composent cette mini station spatiale internationale, en fait, ont été construits en double. double. Donc il n'est pas exclu que dans les 3 à 5 ans qui viennent, je ne sais pas quand, mais que cette station soit agrandie. C'est même, c'est même prévu.
Voire même doublée en superficie.
Ah, c'est le but. C'est le but. Le but, c'est vraiment de pouvoir l'agrandir. Mais pour l'instant, avec la Chine, il y a toujours une part d'inconnu dans le calendrier. On sait que ça se fera. On sait aussi que cette station, elle a une durée d'exploitation qui est de l'ordre d'une dizaine d'années. Donc, il n'est pas exclu. Il est même quasi acquis maintenant que cette station sera agrandie.
Alors, Guy Hechao. Qui est Guy Hechao? Eh bien, c'est le civil qui fait partie donc de cette aventure. C'est un professeur à l'université de Beiyang qui va donc diriger des expériences scientifiques. Alors, qu'est-ce qu'il va faire là-haut, ce monsieur? Des trucs assez complexes quand même. Il va étudier de nouveaux phénomènes quantiques, des systèmes spatiaux temps fréquence de haute précision, la vérification de la relativité générale, l'origine de la vie. Carrément. Bon, ça, après, c'est ce qui est écrit sur le dossier de presse.
Le quantique, on sait que les Chinois sont forts.
Oui, c'est clair.
Ils ont fait des essais de communication quantique dans les premiers, mais effectivement.
La question qu'on peut se poser, Mathieu, est-ce qu'il est dangereux, c'est peut-être le mot un peu fort, mais en tous les cas, suspicieux de laisser comme ça cette envolée chinoise vers le spatial, au niveau sécurité notamment?
Oui, mais c'est un phénomène inarrêtable. Donc, ils ont déjà lancé plus de 700 satellites. Les États-Unis en ont 4000. Les usages sont multiples. On voit, ils ont été très bons pour cartographier leur pays. Ils ont beaucoup d'usages aussi dans l'agriculture. Donc, c'est inarrêtable. Donc, vaut mieux à la limite collaborer. Effectivement, il y a peut-être des sujets sensibles comme dans le militaire.
Non, mais voilà. Mais je ne sais pas si vous souvenez des ballons chinois. Mais... les ballons chinois, quand même, ça a été une sacrée histoire.
On était entre l'avion et la fusée dans la stratosphère. Ouais, alors finalement, la stratosphère, c'est posé le plus de problèmes aujourd'hui.
Oui, c'est la zone grise de l'espace. Oui,
mais ces ballons chinois,
elle n'est pas régulée par le droit international.
Qui ont survolé le territoire américain et qui récoltaient des données. Et donc, on se souvient que l'US Army avait abattu. Quelques-uns de ces ballons chinois, et avait récupéré des pièces détachées et s'était rendu compte que c'était pas que des ballons météorologiques la Chine laissait entendre.
Alors les Chinois ont aussi expliqué qu'ils avaient tué des, enfin en tout cas pardonnez-moi cette expression, tué pour un pauvre objet, non pas tué, mais enfin voilà, ils ont détruit des ballons stratosphériques américains, et les Américains, à ma connaissance, n'ont pas démenti cette information là donc je veux dire que c'est petit jeu quand même de surveillance. Ça a été très mal fait, très maladroit et extrêmement mal communiqué, je pense aussi à un très mauvais moment pour les Chinois, qui ça a été une espèce de furoncle terrible dans les relations internationales, cette histoire de ce ballon stratosphérique. Il y a un point dont on n'a pas parlé, à mon avis, qui me semble très important, parce que c'est là peut-être où la Chine va devoir le plus travailler sur l'espace, c'est le sujet de l'écologie. Parce que autant une grande puissance comme la Chine qui s'affirme, qui a son autonomie stratégique, ça ne fait pas plaisir aux Américains, mais dans le jeu, disons, international de l'ONU, c'est pratiquement incontestable. En revanche, sujet qui est mondial, c'est les fameux détritus des satellites, ces fusées qui partent et dont ils disent un peu ouvertement, moi ce que je trouve choquant, c'est on verra un petit peu où ça tombe, je caricature, mais c'est pas très loin quand même de la réalité.
C'est pas très cool.
Là, à mon avis, en tant que future grande puissance affirmée, ils le sont, mais ils jouent un petit peu toujours sur le rôle de pays intermédiaire et grande puissance, ils vont devoir être plus responsables sur ce sujet. Sinon là, pour le coup, je pense qu'ils vont avoir tout le monde à dos. S'ils font pas quelque chose de plus... clean, disons, sur ces sujets, qui sont des gros sujets à la pollution de l'espace.
Parce que, Antoine, bien sûr, il y a l'aspect, on va dire, communication de tout ce qui a été fait hier, mais il faut savoir que, alors, on parlait des ballons espions, mais aujourd'hui, le meilleur endroit pour espionner un continent ou un pays, c'est l'espace.
Ça reste l'espace.
On est d'accord.
Ça reste l'espace. Une fois que vous avez lancé votre satellite, il passe n'importe où, il est absolument pas repérable, ou quasiment pas repérable. Vous prenez des photos, vous pouvez même aussi prendre des photos à partir de n'importe quel engin. Mais on parlait des ballons tout à l'heure. C'est vrai que la stratosphère, par définition, en théorie, il ne s'y passe rien. Ouais. Mais là, c'est vrai qu'avec cette fameuse histoire...
Là, on parle de 20 km d'altitude.
On parle de 20 km d'altitude. Avec l'altitude de ce ballon. Avec l'altitude de la station, c'est à peu près 400 km. Donc, à 400 km, vous êtes tranquille pour mettre n'importe quel type de satellite. Mais il y a un point sur lequel je voudrais revenir. On évoquait tout à l'heure la collaboration. La Chine souhaite avoir des collaborations internationales. Elle a déjà des collaborations avec la France, notamment pour sa prochaine prochaine sonde lunaire Chang'e 6, il y a un instrument scientifique qui est fourni par la France. Pour ce qui est de l'homme dans l'espace, alors il y a des rapprochements qui ont été faits entre interagences. Des astronautes de l'Agence spatiale européenne se sont entraînés avec leurs homologues chinois. Et vice-versa, des astronautes chinois,
donc, y a
des taïkonautes chinois.
Il n'y a pas une totale opacité, c'est-à-dire que
maintenant. Non, et puis, une collaboration, c'est comme ça que ça commence aussi. C'est par un simple échange de base. Et vous cultivez ça, et puis vous voyez jusqu'où ça peut vous mener.
Et ça sera probablement un outil pour un petit peu de politique marketing vis-à-vis du reste du monde. Ils vont offrir leurs services à des pays qui sont peut-être un intermédiaire.
Ils n'ont pas les moyens.
Type le Pakistan. Qui ont des moyens réels mais limités, et surtout la technologie manquante, et donc ils seront très à même de partager leur technologie.
Messieurs, il est bientôt 21h30. On n'a pas terminé avec ce sujet parce que là on évoque, on commente ce qui s'est passé cette nuit, mais les ambitions en termes de spatial pour la Chine sont beaucoup plus importantes, Antoine.
Bien sûr.
Tu vas nous faire un petit point justement. Quels sont les grands chantiers spatiaux de la Chine? On en parle dans un instant, bientôt 21h30, juste après Faiza Younsi et l'Info Echo. À tout de suite.
Tech & Co, le débrief de la tech.
Voilà, le retour de Tech & Co sur BFM Business. Dans quelques instants, ce sera notre plongée dans la French Tech, comme chaque mardi soir. Mais je vous rappelle que depuis maintenant, allez, une bonne vingtaine de minutes, on revient sur cette actualité spatiale chinoise très importante, puisque la nuit dernière, il y a eu ce lancement de la mission Shenzhou 16 qui embarquait à son bord trois astronautes, dont pour la première fois un civil. Et effectivement, voilà, station spatiale chinoise. L'ISS chinois existe, les expérimentations se font, des études, on le disait, quantiques, physiques, etc., qui sont faites là-dessus, donc ça marche. Avec nous ce soir, donc Jean Chambure, Antoine Meunier et donc Mathieu Leber, qui est partenaire à TNP. Antoine, on a tout bien expliqué, en fait, ce qui s'est passé cette nuit, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est qu'une étape, finalement, et la Chine a beaucoup, beaucoup d'ambition dans le spatial.
Oui, déjà, elle va continuer d'exploiter pendant à peu près une dizaine d'années sa station spatiale, de manière à avoir une occupation humaine permanente en orbite autour de la Terre. Mais ça, c'est le tremplin qui doit lui permettre d'aller encore plus loin. Et cet encore plus loin, c'est la Lune, tout simplement. C'est d'envoyer d'ici une dizaine d'années, c'est-à-dire vers 2030, un homme à la surface de la Lune.
Mais alors, ça... c'est pas de la science-fiction, non. C'est-à-dire qu'il y a un programme. Oui. Des milliards et des milliards sont dépensés là-dessus pour tenir ce calendrier.
Oui, et alors tenir ce calendrier
avec la Chine. Le calendrier spatial, c'est toujours, même pour
c'est
les
toujours
États-Unis,
un peu, oui, c'est toujours un peu flou, mais cet objectif lunaire, il remonte quasiment à près de 20 ans. En 2007, la Chine a envoyé sa première sonde lunaire autour de notre satellite, Chang'e 1, qui a pris tout un tas de photos, entre autres. Et puis après, il y a eu des atterrissages, des alunissages en automatique à la surface de la Lune, Chang'e 3, il y a eu Chang'e 4 qui, elle, s'est posée sur la face cachée de la Lune. Ça, c'était vraiment une première mondiale. La Chine a ensuite réussi à ramener des échantillons depuis la surface de la Lune, avec une petite fusée qui a redécollé, qui est revenue ensuite sur Terre avec quelques centaines de grammes de roches lunaires. Mais ce que vise la Chine, c'est de pouvoir arriver sur la Lune, de pouvoir déposer un équipage à la surface de la Lune d'ici une dizaine d'années. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, il y a des clichés d'un alunisseur habité, d'une maquette plus précisément, qui ont commencé à circuler sur la toile. Donc petit à petit, les choses se dévoilent. Il faut encore un gros lanceur, un très gros lanceur, l'équivalent du SLS pour envoyer l'équipage.
Le Starship, quoi.
Pas un Starship. Pas pas tout à fait un Starship. Le SLS, c'est l'équivalent de Saturne V, autrefois. Ce lanceur, ce nouveau lanceur chinois, là, il est en phase de développement et il devrait être prêt vers 2026-2027.
D'accord. Mais on est d'accord que c'est un peu l'Artemis chinois qui est en train de se dessiner.
C'est un petit peu ça. C'est effectivement un petit peu ça. Est-ce que la Chine arrivera avant les États-Unis? Ça, très sincèrement, je m'avancerai pas là-dessus. Mais leur objectif, c'est bien d'arriver à déposer un homme à la surface de la Lune d'ici 10 ans.
Oui. Artemis, ça devrait être... C'est moins, non, en théorie?
Alors, en théorie, Artemis, c'est Artemis 3, 2025, oui. Fin 2025, mais oui. Bon, les calendriers étant ce qu'ils sont, ça sera peut-être un peu après.
Oui. C'est clair.
Mathieu. En tout cas, la Chine a les moyens de ses ambitions, oui. Puisque oui. Financièrement, ils les ont. En termes d'ingénierie et de capacité de formation des ingénieurs, ils sont deuxième au niveau mondial après les Indiens. Et en termes de puissance de calcul, de traitement de la donnée, ils font jeu égal avec les Américains. Enfin, il y a débat là-dessus. Mais en tout cas, ils ont tous les moyens, toutes les bases pour faire en sorte d'atteindre ces objectifs.
Ben, aujourd'hui, ils font jeu égal avec les États-Unis dans l'espace. Ils sont même devant la Russie, très clairement.
Ils sont au niveau des Américains en termes de qualité de tous les programmes qu'ils lancent.
Et ce que je retiens, c'est qu'il y a eu une accélération du programme depuis. Il y a eu très peu de missions habitées. 11 sur 20 ans, c'est pas grand chose. Mais depuis 2 ans, il y a une accélération. 5 missions habitées en 2 ans.
Avec beaucoup d'échecs?
Aucun échec.
C'est ça qui est.
Toutes les missions habitées chinoises ont toutes fonctionné depuis 20 ans.
Et ils ont laissé un peu derrière eux leur ancien mentor russe aussi.
Oui.
Qui a mené la danse, si je puis dire, dans les années 60. Hein. Et c'est vrai qu'il y a eu un ralentissement de la puissance chinoise spatiale, russe spatiale. Jean, la Lune, oui. Prochain objectif à ton avis pour les Chinois?
Oui, c'est certain. Et c'est vrai que c'est un grand atout finalement. Alors, ça, à la fois avantage inconvénient. Bien sûr, dans les années 60, il y avait déjà des lancers dans l'espace d'êtres humains du côté américain et du côté soviétique. Mais il y a eu aussi toute cette histoire américaine de l'espace que Antoine connaît bien, avec des échecs dramatiques et des morts aussi. Hein. Des morts, donc il faut savoir aussi le poids que un cosmonaute mort dans l'espace pour les États-Unis, c'est aussi c'est terrible, quoi, je veux dire, en termes humains déjà. Et puis
chaque drame spatial, chaque mission perdue, le programme s'est arrêté.
Challenger,
on s'en souvient. Hein.
Challenger, voilà. Columbia et exactement. Même Apollo.
Apollo. Et je pense que ça a contribué à ralentir d'une certaine manière cette reconquête de l'espace par les États-Unis. Il y a eu des papiers très critiques sur la conquête spatiale, en disant regardez, mais vous donnez tout à Elon Musk, que fait vraiment la NASA, on n'est pas retourné sur la Lune depuis très longtemps. Un discours aux États-Unis sur ce sujet
qui est très
critique à l'égard de l'audace technologique, mais ça se comprend par rapport à l'histoire spatiale. Tandis que la Chine, elle, pour l'instant, et on croise le drapeau pour eux et pour tout le monde, je veux dire, mais qui n'ont pas connu des échecs, des drames humains.
Elle est sur une dynamique qui fait que pour l'instant, elle n'a heureusement connu aucun échec. Mais bon, après, on ne sait pas de quoi demain est fait.
De nouveau, et ça, je voudrais réinsister un tout petit peu là-dessus, parce que je pense que si ça arrivait, pour la Chine, ce serait vraiment un facteur de risque énorme. C'est qu'un débris de leur fusée ou de satellite tombe à un moment donné, malencontreusement, sur une ville et fasse des morts. Alors ça, ce serait dramatique, je pense, pour la Chine et pour ses prochains projets et pour son image encore plus. Parce que là, on a plutôt une image, même si on peut contester la Chine, mais relativement positive de ce progrès.
Mais Antoine, c'est vrai que la plupart du temps, quand ces fusées partent après, elles se désintègrent quand elles retombent quand elles franchissent l'atmosphère.
Elles retombent.
C'est rare qu'il y ait des gros débris qui tombent.
Oui, généralement, ça... Enfin, peut arriver que parfois certains gros débris tombent au sol. C'est même arrivé plusieurs fois en Chine.
Oui. Et la plupart du temps, ça tombe dans la mer, puisque rappelons-le, le globe est recouvert à 70%.
C'est vrai que la probabilité, un débris qui crée des morts sur Terre est très certainement plus faible que la probabilité qu'un être humain qui part dans l'espace décède.
Oui,
ça,
en c'est effet.
Vrai. Tu as raison.
Mathieu, sur ce sujet?
De toute façon, il faut prendre des risques. Donc à un moment, la réalité rattrapera la Chine. Il y aura, je le espère, le plus tard possible, une catastrophe. Il faut faire avec. Il faut prendre des risques. Il faut savoir le gérer, l'anticiper. Je pense qu'ils ont déjà tout prévu en cas de problème, parce que ça arrive. Regardez Elon Musk, comment il a réagi après le crash de Starship. Bon, c'était déjà prêt. Hein.
Oui, il avait préparé en plus tout ça. On en avait parlé. Hein. Il savait très bien que c'était le premier lanceur. Enfin, la première.
Bien sûr, ouais.
Et c'était normal. Même,
mais ce qu'on peut dire pour la Chine, c'est que elle fait preuve toujours d'une extrême prudence dans ses choix techniques. C'est très pragmatique, c'est extrêmement réfléchi. Chaque mission va préparer la suivante.
D'accord.
C'est à chaque fois une étape de franchie. Le but, c'est vraiment d'amoindrir au maximum les risques qui sont pris. Et pour l'instant, les choix techniques se sont révélés à chaque fois payants.
Ouais. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se dit, ben voilà, la Chine fait cavalier seul dans ce domaine. Alors, il y a eu une déclaration de l'un des pontes, en fait, du spatial chinois, qui a dit, la Chine attend avec impatience et souhaite la participation d'astronautes étrangers aux missions habitées dans la station spatiale du pays. Donc, voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Mathieu, hein. L'idée, c'est, alors bon, à mon avis, c'est pas demain qu'on aura un Américain, mais
il peut y avoir différents Asiatiques.
Voilà.
Effectivement, tout le Moyen-Orient aussi peut être intéressé.
Ça peut être aussi une stratégie.
Toute la zone d'influence chinoise, en gros, qui peut se retrouver à un moment donné avec un participant.
Les Émirats, par exemple, ont une politique très ambitieuse de développement de l'espace. Ça pourrait arriver qu'ils gagnent du temps en allant faire un stage en Chine.
Il y a ça et la dimension aussi sociétale quand même. Cette cosmonaute chinoise, ça paraît un petit peu anecdotique, de l'amour peut-être pour les Chinois, mais c'est pas neutre. Ça dit aussi quelque chose d'assez profond à la société chinoise, qui est basée sur une égalité absolue homme-femme. C'est vraiment dans les grandes lois du communisme, à la chinoise, du communisme en général. Mais là aussi, je pense que ça suscite un certain espoir dans la société chinoise. Donc, si le pouvoir politique est un peu astucieux, normalement, il doit se servir de tout ça pour montrer, regardez, il n'y a pas que, disons, les grands, les TikTok et les Jack Ma qui innovent, regardez, l'État aussi est capable d'innover. Parce que, dans notre sujet favori, le numérique, le digital, on voit bien que l'État, c'est pas d'ailleurs le cas du seul État chinois, mais est un peu à la remorque quand même de ces géants numériques-là. D'un point de vue purement tech, il reprend un lead assez important.
Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va susciter des vocations pour les futures générations d'ingénieurs chinois, parce que le fait de voir des cours comme ça en visio d'astronautes chinoises, tous ces petits étudiants, enfin ces élèves vont avoir envie de faire pareil. Donc on prépare aussi la nouvelle génération d'ingénieurs qui emmèneront peut-être des Chinois sur la Lune et peut-être demain encore plus loin. C'est ça qui est intéressant.
Tian, le ciel, hein, c'est très important pour pouvoir chinois. Tiananmen, la place du ciel.
Ouais.
Enfin, voilà, tout ça, c'est vraiment la grande épopée chinoise.
Eh bien voilà, c'était important. Oui,
c'est un moyen de fédérer l'ensemble d'un peuple derrière soi.
En effet.
L'Inde fait exactement la même chose aujourd'hui, puisqu'elle a elle aussi un programme de véhicules habités, mais pas avant fin 2024, début 2025.
Voilà, qui est moins ambitieux, peut-être moins.
Qui est moins ambitieux, c'est déjà d'envoyer un homme, un premier équipage dans l'espace.
Voilà, passionnant tout ça. Merci beaucoup à tous les trois. Hein. Une actualité intéressante. Alors, l'exploration spatiale est toujours un sujet passionnant, mais quand c'est sous le prisme de la Chine, alors là, on découvre plein de choses. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Jean de Chambure, consultant GDC Advisory, Bureau des Éveilleurs, Antoine Meunier, rédacteur en chef du site lachroniquespatiale.com, et merci à Mathieu Leber, donc partenaire chez TNP.
Merci, bonsoir.
Tiens, petite actualité, dans un instant, on va retrouver notre rendez-vous French Tech, mais vous savez que le réseau Orange souffrait depuis quelques heures de problèmes techniques. Il était difficile de passer des appels. Alors, Internet fonctionnait, mais voilà, les appels n'aboutissaient pas. Eh bien, visiblement, les appels via le réseau mobile d'Orange en France ont été perturbés, donc on le disait depuis ce milieu d'après-midi, mais depuis 20h30, tous les services d'Orange sont à nouveau fonctionnels. Toutefois, stipule Orange, puisque là je suis en train de vous lire le communiqué de presse, le réseau Orange reste sous vigilance durant les prochaines heures, et Orange présente ses excuses pour la gêne occasionnée. Voilà, toujours important, hein. Enfin voilà, quand un opérateur mobile de la taille d'Orange a des soucis, effectivement ça devient une actualité. Vous restez avec nous, petite pause, et dans un instant on revient avec notre rendez-vous French Tech. À tout de suite.
Tech & Co, plongée dans la French Tech.
Notre plongée dans la French Tech comme chaque mardi soir avec nos deux invités ce soir. Et je salue Julien Chardon qui est avec nous via Skype, le président d'ILEC. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
Vous êtes basé à Toulouse, c'est ça ?
Exactement.
Parfait, on va découvrir dans un instant ILEC. Vous êtes un fournisseur indépendant d'électricité verte. Et avec nous en plateau, c'est Louis Blanchard. Bonsoir Louis.
Bonsoir.
Président donc de CAIR. Et on va peut-être commencer par vous. Vous êtes un producteur indépendant d'électricité et d'hydrogène vert. Évidemment, tout ça a été imminemment technologique. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc CAIR ? Qu'est-ce que vous faites ?
CAIR est un producteur indépendant d'énergie renouvelable. Nous avons été créés en 2017, nous sommes une société assez récente. Nous avons 1 gigawatt de capacité installée et nous développons, concevons, finançons, construisons, exploitons nos projets de production d'énergie renouvelable, qui sont des projets solaires, des projets éoliens, des projets hydroélectriques, des projets en mer, des projets à terre. Nous faisons aussi de l'hydrolien et on s'est également lancé dans l'hydrogène vert, parce que nous pensons que c'est un vecteur important de la transition énergétique.
Fabriquer l'énergie, c'est un chantier colossal. Bien sûr, vous le disiez, alors qu'elle soit verte, l'hydrogène, etc. Enfin, il y a énormément de moyens. Il faut beaucoup d'argent, non, pour créer cette énergie ?
Il faut pas mal de moyens, effectivement. Nous, on a investi aujourd'hui à peu près un peu plus d'un milliard d'euros dans nos projets en exploitation.
D'accord.
Et une somme significative dans ceux que nous développons, puisqu'au-delà du gigawatt que nous exploitons, nous avons à peu près 30 gigas de projets en cours de développement.
Ah oui.
Y compris des projets qui sont assez significatifs, les projets offshore éoliens en particulier. Donc il faut pas mal de sous, et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons fait rentrer en 2022 deux investisseurs, DIF et BPI France, qui continuent à participer au financement de notre aventure.
Voilà, votre objectif, c'est 3 gigawatts d'actifs en 2025, c'est ça ?
C'est à peu près ça. On a prévu de un peu plus de doubler notre capacité installée, de doubler notre chiffre d'affaires et de tripler notre EBITDA sur les 3 prochaines années. Donc on devrait arriver à peu près à ça. Ouais.
Et puis de toute façon, on n'a pas de choix. Il faut de l'énergie verte maintenant. Vous êtes focalisé là-dessus.
Nous ne faisons que ça. Nous produisons de l'énergie verte.
D'accord.
Le monde a néanmoins un petit peu changé puisque nous produisions de l'énergie verte dans un monde très régulé. Dans une vie antérieure, avant d'être CAIR, nous étions Quadran. Et nous vendions de l'énergie essentiellement à des énergéticiens publics comme EDF dans le cadre de contrats très organisés. Aujourd'hui, nous vendons de l'énergie à tout type d'acteurs, des acteurs comme ILEC que vous avez invités.
On va retrouver
des fournisseurs ou des clients directement. Et nous essayons de faire foisonner nos actifs pour être capables de leur vendre l'énergie dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. L'avantage qu'ils ont quand ils nous achètent de l'énergie, c'est que nous pouvons nous engager sur des durées très longues et à des prix qui sont fixés ou connus à l'avance, qui, par les temps qui courent, sont probablement des avantages importants.
Ça, c'est clair. Qui peut acheter votre énergie ? Moi, particulier, je peux acheter votre énergie ou pas ?
Alors, nous ne vendons pas d'énergie à des particuliers. Vous pourriez acheter de l'énergie à ILEC et nous pourrions vendre de l'énergie à ILEC et ensuite la diviserait en plus petits paquets pour que les particuliers puissent l'acheter. Nous vendons de l'énergie aujourd'hui qu'à des clients B2B, donc des industriels.
Donc vos clients, c'est des industriels ?
C'est des industriels.
Ils sont forcément à proximité de vos sites de production ou pas ?
Non, l'énergie est fongible, donc on peut injecter de l'énergie à un endroit et la récupérer à un autre endroit.
D'accord.
Il faut simplement assurer la traçabilité de cette énergie pour s'assurer que l'énergie consommée par notre client est bien d'une quantité équivalente à celle que nous avons produite et qu'elle est donc bien verte et certifiée comme telle.
D'accord. Et donc vous utilisez le réseau d'EDF pour transporter l'électricité ?
Alors nous sommes dans 20 pays, donc EDF c'est un cas particulier pour nous.
Bien sûr, je parle pour la France. Hein.
Mais en France, nous utilisons le réseau d'EDF pour le transporter. Nous pouvons de temps à autre connecter directement un de nos actifs à l'usine de notre client pour qu'il consomme directement notre énergie, mais c'est plutôt un cas particulier. Le cas général, c'est que nous utilisons effectivement le réseau pour transporter l'énergie qu'on produit et qu'on vend à nos clients.
Combien de sites aujourd'hui avez-vous pour produire de l'électricité ?
Nous avons à peu près une centaine de sites.
Une centaine de sites, d'accord. Pas qu'en France, hein, c'est ce que vous disiez. Vous êtes aussi présent en Afrique, au Brésil et en Europe.
Alors nous sommes d'abord européens, donc en Europe nous sommes présents en Allemagne, au UK, en France, en Italie, en Espagne, d'accord, en Grèce, en Pologne, en Roumanie, et en Islande, au Monténégro et en Moldavie, donc des pays un peu plus petits. Nous sommes au Brésil et nous sommes enfin en Afrique. L'Europe représente plus de 50% de notre capacité installée et à terme elle devrait représenter entre 65 et 70% de notre capacité installée.
Merci beaucoup Louis, vous restez avec nous. On accueille donc maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, Julien Chardon qui est avec nous. ILEC, est-ce que vous pouvez nous présenter ILEC qui a été fondé en 2016, Julien, s'il vous plaît.
Oui, nous sommes fournisseurs d'électricité verte et de gaz renouvelable. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on achète l'énergie produite par des producteurs comme CAIR. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on travaille ensemble, mais ça pourrait être l'occasion d'en discuter. Et on la commercialise cette fois à des particuliers. C'est-à-dire que les producteurs, comme le disait Louis tout à l'heure, travaillent principalement et quasiment exclusivement auprès de pour vendre leur énergie auprès de clients B2B. Mais nous, notre rôle, c'est d'acheter cette énergie à des producteurs indépendants d'électricité verte et de gaz et de les commercialiser à des particuliers.
Est-ce que les gens font attention à l'énergie qu'ils consomment, la provenance de l'énergie qu'ils consomment ? Parce que c'est quand même assez abstrait. Est-ce que vous sentez un réveil des consciences de la part des clients ?
On voit régulièrement depuis l'ouverture du marché de la fourniture d'électricité à destination des particuliers un attrait de manière générale au fait de challenger le fournisseur historique et puis depuis quelques années le fait de en effet choisir l'approvisionnement en énergie, de savoir ok tel fournisseur auprès de qui il achète son énergie, est-ce qu'il l'achète à de l'hydroélectricité, de l'éolien, etc. Et nous, c'est ce qu'on fait en termes de communication et en termes de transparence qu'on apporte à nos clients. Et on voit en effet une demande qui est de plus en plus forte d'année en année.
Alors voilà, moi j'ai envie d'apporter mon petit plus à la planète et j'ai envie de consommer une énergie verte. Je suis parisien. Julien, comment je fais pour souscrire à votre offre et pouvoir bénéficier de votre électricité ? C'est possible ?
Comme le disait Louis tout à l'heure, on utilise également le réseau national pour acheminer l'énergie. Après, la consommation, elle se fait dans les métropoles, en campagne, et donc la souscription, elle peut se passer par deux moyens, en ligne, sur notre site ilec.fr ou par téléphone, auprès de notre service client. Service client qui a d'ailleurs été reconnu aujourd'hui par le médiateur national de l'énergie comme un des services clients qui a le moins de litiges en France et qui est comme le premier fournisseur alternatif avec le moins de litiges sur le marché français.
Et au niveau facturation, vous êtes plus cher, vous êtes moins cher que les services plus traditionnels, l'électricité ?
On est à des tarifs sur le prix du kilowattheure, à des tarifs qui sont similaires à l'acteur historique.
D'accord, très bien. Combien y a-t-il de fournisseurs ? Vous avez combien de clients fournisseurs d'électricité, par exemple, en France ?
De producteurs ?
On a producteurs, oui.
Entre 40 et 50 producteurs partenaires sur l'électricité et le gaz. Et du coup, avec tout type de production, de l'électricité, de l'éolien, du solaire, de l'éolien, de l'hydroélectricité. Et du biogaz, parce qu'on fournit également du gaz renouvelable.
Bon, ben, il va falloir que vous poursuiviez votre visio avec Louis de Kerr, donc qui pourrait devenir aussi un futur client. Merci beaucoup, Julien. Vous êtes donc le président d'ILEC. Et merci à Louis Blanchard, donc président de Kerr, pour notre rendez-vous French Tech dédié à l'énergie et l'énergie verte. Voilà, ce Tech & Co est terminé, bientôt 22h. Merci de nous avoir suivis comme chaque soir. On sera là demain, mercredi, 20h, 22h, vos 2 heures de tech quotidienne sur BFM Business Radio Télé, et puis les replays et les podcasts qui suivent, bien sûr. Très bonne soirée et à demain.